Merci à l'OM The Gang, merci. À tout de suite. Merci Nani Zeno, merci à tout de suite. Bonjour à tous, vérification de l'image, je me vois, vérification du niveau du micro, fais voir, c'est du comme d'habitude, ok, ça module comme d'habitude, ok, bah ça me semble ok, est-ce que la tablette fonctionne? Mais quelle masterclass de tech, j'ai envie de dire, c'est incroyable. Vous allez bien, je vois plein de petits pseudos... Habitué, salut la cantine, salut Usul, salut, merci encore à Nani Zeno et Allo and the Gang pour les soutiens, pour les subs. Nous avons vécu une soirée très étrange en matière de subs hier soir, du Valo, hein, pour voir si le passage de l'écran 165 Hz avait une incidence sur mon gameplay, mes résultats, je spoil, non, pas trop, voilà, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, est-ce le 165 Hz ou... C'est pas la pitié pour le niveau du joueur. Ça a été une nuit de sub de fou. Ça n'avait aucun sens. C'était très, très gentil. Voilà. Il n'y a plus de sub, j'en perds exactement. Salut Eclagma. J'aime cette bonne humeur dans le chat. Salut à Lucas Baron. 13. C'est marrant, ce pseudo me disait quelque chose, mais c'est ton premier stream ici. Ok, bienvenue. Pourtant, Lucas Baron, c'est un pseudo que j'ai déjà vu. Alors, est-ce que c'était avant? Ou Valo, tu joues peut-être un peu, non? T'es pas venu en deathmatch? Non. Bon, ça va. J'ai de belles choses pour vous en termes d'infos ce matin. Merci, Jean-Perse. Mon petit bonheur, le chat. Le petit bonheur simple. Voilà. Une tequierta qu'on enfile dans une branche d'arbre, qu'on fait cuire sur de la braise au milieu de la forêt. Un stream, un chat. Voilà. Le bonheur des choses simples. Salut Zarake, qui nous dit, ça fait un petit moment que je suis pas passé sur la matinée, ça fait zizir. Oh, ça fait zizir, ça fait longtemps que j'ai pas entendu cette expression. Vous avez vu que la revue de presse revenait fort, hein. L'actu là, voilà, c'est vrai que j'ai été un peu tenté de délaisser parfois l'actualité et ses mauvaises nouvelles, voilà, et son côté parfois un peu anxiogène pour la joie, la félicité, le bonheur, la lumière du jeu vidéo, du gaming. Mais, tiens, ça fait penser que je voulais poster peut-être le visuel de du stream au Louvre ce matin. Peut-être le faire ensemble, ça. Ou je le ferai ce midi. Bon, je le ferai ce midi. Tiens, je me mets un message. Sinon, je vais vous abandonner 5 minutes là. Hop, attendez. Je me mets un message à moi-même. Vous aussi, vous envoyez des textos ou pas? Vous vous envoyez des textos, vous, parfois? Sam, poste le Louvre. Ça vous arrive, vous? De vous envoyer à vous-même des textos pour penser à faire des trucs? Non. Des rappels? C'est comment ça fonctionne? Souvent, oui, très peu. C'est quoi des rappels? Je ne sais pas comment ça fonctionne. Une fonctionnalité sans doute étendue et maligne de votre téléphone. Je te regarde depuis Canal Plus, je te retrouve sur Twitch, c'est formidable. Alors Jean, Canal, ça fait un bail, hein. Moi, j'ai quitté le groupe Canal Plus pour France Télévisions il y a 17-18 ans maintenant. Pop, 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 pop. Je restais. Jacob qui dit, je suis resté à la croix sur la main. Team vieux, hashtag team vieux. Mon papa, feu, mon regretté papa, lui, il faisait des. Je crois qu'il faisait des nœuds à son mouchoir. C'était trop mignon. Il faisait des nœuds à son mouchoir. Mais le problème, c'est que il m'expliquait que parfois il faisait un nœud et puis il savait plus pourquoi il avait fait le nœud. Voilà. Du coup, il se notait tout sur les petits post-it. Beaucoup, il avait la feuille des post-it ou n'importe quel petit bout de carton. Les emballages de yaourt là. Et hop, il les retournait, ça faisait des petits bouts de carton, il coupait dedans, puis il se mettait des rappels dedans. J'en envoie à mon mari, c'est lui ma mémoire. C'est trop mignon, ça pitasse. Ah, c'est sur le calendrier, les rappels? Ah, dans l'agenda. Ah ouais, mon épouse se moque dessus de moi là-dessus, parce que je sais pas me servir de ce truc là. Elle essaie de me convertir à l'agenda là, je sais pas, Microsoft, je sais pas quoi là. J'avoue que je suis pas chaud, chaud, chaud. On a un salon Discord avec ma copine pour qu'on se rappelle ensemble des trucs à faire. Ah ouais, Nialef. Ah ouais. D'accord. Moi, je mets des réveils, mais quand ils sonnent, j'ai déjà oublié la raison pour laquelle je l'ai mise. Pas cool. Comme mon papa avec les nœuds au mouchoir. Il y a une appli exprès sur iPhone pour les rappels. Ça te dirait de reprendre Fort Boyard, Sam? Non. Non, merci, Kitagawa, c'est gentil. Mon grand-père, le petit nœud au mouchoir aussi. Usul, il faisait ça. Ma prof d'anglais au collège nous faisait des croix avec des feutres du tableau. C'est drôle. Salut, c'est Vap Sichuan. Sichuan, c'est pas une région de Chine, ça, le Sichuan. Tiens, je viens de voir un texto. Tiens, qui m'écrit? En fait, c'est moi qui. C'est mon texto tout à l'heure. La cantine, je faisais pareil avec les mouchoirs. Je faisais pareil avec les mouchoirs, je ne suis pas si jeune du coup. Si, je sais que tu es jeune, la cantine. Puis le passage au Kleenex a eu les raisons de cette pratique. Ah, le Kleenex a tué bien des choses. Trop mignon. Toujours écouter son épouse. C'est un bon conseil, Jean Perse. C'est un bon conseil. Je ne comprends pas le message de Jérémy James, il me fait plaisir. Truc de geek de point, je programme des poètes sous Mastodon pour recevoir mes rappels de trucs. Je répète cette phrase mystérieuse et poétique à la fois. Truc de geek de point, je programme des poètes sous Mastodon pour recevoir mes rappels de trucs. Je ne comprends pas tous ces mots, mais j'aime la poésie de cette phrase. J'envoie un SMS à ma femme, c'est elle mon pense-bête, me dit Takismo. Ah, le mouchoir qui passe à la machine à laver, t'as une semaine pour défaire les nœuds. Oui, Alain. Ah oui, ça c'est sûr, ouais. Salut Alexandra. Toi, calendrier aussi, toi? Ok. La cantine. Ah, le Kleenex a tué bien des choses. Si je ne devais retenir qu'une phrase de toi, ce serait celle-là. Oui, tu l'as chopée celle-ci, la cantine. Je l'ai faite un petit peu ni vu ni connu celle-là. Merci Café au lait pour ce soutien qui vient s'ajouter aux autres soutiens. Merci pour ton prime. Merci pour ce 8e mois. Merci Coton. Merci Coton pour ton prime. Quelle bonne humeur en ce chat ce matin de. C'est fou ça. Bien dormi. Merci Sokyo, bien dormi, ouais. Hier, on s'est fait une bonne soirée Valo, là, qui a duré, je sais pas, un bon 4 heures et des brouettes, hein. Peut-être un peu plus. Ouais. Et les résultats étaient pas foufous, mais on a passé une très bonne soirée. D'autant qu'on fait Ranked Deathmatch. Ranked Deathmatch, Ranked Deathmatch, ça met un petit rythme sympa, quoi. C'était cool. Et puis, je me suis couché pas trop tard, je me suis couché vers 1 heure. J'ai regardé un début de soirée avec. Il y a Galette Saucisse Chevalier Noir qui n'a pas encore dormi. Avec mon épouse qui a travaillé tard, en ce moment on est sur Rookie. Non, c'est pas Rock, c'est Rookie. Rookie. C'est la série avec le bleu dans la police, mais qui est un peu âgé là. J'aime bien. Voilà, on regarde un petit peu ça, puis après, je me... Voilà, Rookie. Pas Rox et Rookie, hein, pour les vieux. Ouais, il y a eu une pluie de sub hier, Gaspard, c'était... Pas Rookie 4, non. Un autre. Oui, c'est l'acteur de Castle, exactement, que j'aime beaucoup. On aime bien cette série, que c'est chill, en vrai. Je ne connais pas du tout, c'est sur quelle plateforme? C'est sur Netflix, Sokyo. C'est l'histoire d'un gars qui a une vie avant, et puis il s'engage dans la police de je sais plus quelle ville. Peut-être Los Angeles, mais je suis pas sûr du tout. Et donc c'est un bleu qui passe un peu par l'école de la police, sauf qu'en fait il est vieux. Il a, je sais pas, entre 40 et 50 ans, je dirais. Et pour un rookie, c'est vieux. C'est à LA. L'acteur, il est excellent, moi j'adore cet acteur. Et on se fait, c'est notre. Je sais pas si vous savez ça, ceux qui sont en couple, mais parfois on a des séries en commun. Les séries qu'on regarde à deux, les films qu'on regarde à deux, puis après on a chacun ses séries, quoi. Moi je suis très SF par exemple, science-fiction, tout ça. Et Hélène, pas du tout. Donc on a cette série en commun. Et en général, au bout de, je sais pas, 5 minutes d'épisode, je m'endors. Et Hélène reprend la tablette et elle regarde d'autres séries. Des trucs un peu romantiques. Ou alors des trucs qui se passent dans des bureaux. Hélène aime bien les trucs un petit peu dans les cabinets d'avocats. Des trucs avec des complots, tout ça là. Ou des trucs un peu comme ça. Ou alors des histoires d'amour dans des cabinets d'avocats. Ouais, genre Suits, à une époque, on était très Suits. Mais là, il est sur autre chose, là. Après, il y a aussi des séries en commun pour différentes raisons. Alors ça, je l'ai pas, Emma. Succession. Tiens, oui, je regarde, me demande si je regarde pas un truc comme ça, ouais. Mais Rookie, c'est cool, hein. Comment ça, des séries en commun pour différentes raisons? C'est-à-dire... Oh, Ally McBeal. Je sais pas si elle a connu ça, Ally McBeal. Je joue pas aux échecs. Hotman. J'ai toujours eu peur des échecs. Même si je n'ai pas peur de l'échec. Salut Hard Rock Gamer, comment vas-tu? Il y a aussi la série où ta femme te demande si tu veux la regarder, tu dis non. Et en fait, à force de la voir regarder, tu te poses avec elle, tu la saoules avec mille questions. La pauvre, ouais. La pauvre. Eh oui, pourquoi lui il fait ça? Lui, c'est qui déjà? Mais attends, mais lui, on l'a déjà vu le. C'est comme dans Rookie, là. Il y a une actrice qui joue un docteur qui vient de Pop il y a 3-4 épisodes là. Et je l'ai déjà vu dans une autre série. Ça fait 3 jours que je me demande où je l'ai vu. Ça m'énerve! Merci Andrea Léo pour le 27e mois. Merci Isara Kiri pour le 46e mois. Merci Café au lait pour ce 8e mois. Ça y est, c'est reparti comme hier soir. Ah, peut-être dans Heroes. Peut-être dans Heroes, Sarvok. Recherche dans Google et tu auras la réponse. Je suis sûr qu'à l'heure de chat GPT, je pourrais trouver ça en 2 secondes en vrai. Un stream de 5 heures, me dit Alexandre. Okay, très bien. Bon, vous, ça va sinon? Heroes, les souvenirs. C'est pas mal les souvenirs. Merci, arbuste vigoureux. Arbuste vigoureux. Un petit arbre en pleine forme, quoi. Merci pour le prime. Dark, je connais pas ça. Une série allemande sur Netflix. Ça parle de retour dans le temps, c'est très passionnant, mais il faut s'accrocher au début. Ok, Dark. Oh oui, Donald Renew dimanche prochain dans Simplay, ouais. Ça va être trop bien, Bibernaise. Tranquille les vacances avant le bac de français. Du coup, c'est pas trop les vacances, alors Roux Roman, parce que bien sûr, tu révises à fond. Je suis en vacances. C'est quoi tous ces gens en vacances au mois de juin? Un arbuste coquineau, je ne sais pas. Dark, c'est très bon. Ah ouais? C'est sur Netflix ou pas? Merci Becknack01. Oh, mais c'est reparti comme hier. Attends, c'est sur Netflix? Attends, Netflix, Dark. C'est pas trop Dark? Ok, je suis dessus, hein. Tout le monde dit que c'est formidable, Dark. Ok, je l'ai. Dans cette série cérébrale, considérée comme l'un des shows télévisés les plus hallucinants, des secrets sont révélés lorsqu'un garçon disparaît d'une petite ville. Ok, je mets ça dans ma liste. Ok. Ok. Par contre, Dark, c'est pas une série où tu peux dormir au bout de 5 minutes, sinon tu comprends rien. Ok. Il faut regarder 2 fois, mais c'est incroyable. Ok. Il faut que tu restes conscient. Ok. Waouh, j'ai regardé The Wolfpack documentaire sur une famille de 6 ados qui ne sont jamais sortis de leur appart new-yorkais de leur vie. Waouh. Salut Jean Non, c'est pas Jean-Paul Sartre. Ah, parce que il y a quelqu'un ici qui a un pseudo, c'est Jean Solpartre. Et toi, tu es Sean Paul Sartre. C'est drôle. Tu es peut-être la même personne. Incroyable. Je vous ai mis, oui, le petit lien hier parce que, bon, il y a beaucoup de streams cette semaine. Il y a, bon, les petits streams revues de presse et gaming matin et soir. On essaie d'être là tous les jours. Il y a demain, mercredi 18h, un MVP. Un MVP notamment consacré à cette question. Est-ce que les diplômes restent déterminants tout au long d'une vie professionnelle ou pas? Voilà. Donc ça, c'est demain. Jeudi 20h, le stream au Louvre avec l'ami AlphaCast, où on va découvrir une magnifique exposition consacrée aux Mamelouks et jouer aux jeux vidéo sur Age of Empires 2 et 4, où justement il y a des batailles impliquant les Mamelouks, hein, ces guerriers entre le 12e et 15e siècle, qui sont aussi une civilisation qui a régné sur le Moyen-Orient. Truc de fou. Donc ça, c'est jeudi. Il y aura vendredi, samedi du petit stream aussi, genre revue de presse, etc. Gaming. Et dimanche, il y a un simplet avec Donald Renew, qui est la voix française de Spider-Man, de Titeuf, et j'en passe. Voilà. Là, enfin, une voix que vous connaissez déjà. Merci d'Atlevi. Ça me fait plaisir. Alors, le message de l'Atlevi, en mode, je voudrais te remercier pour le travail. Ça m'a redonné envie de prendre le temps de regarder les informations en cherchant les sources pour être sûr de ne pas me faire avoir par les fake news. Alors là. Pardon, mais ça me fait plaisir. Merci, Latlevi. Merci, Becknack, pour le 10e mois. C'est fou. C'est comme hier, ça sub. Harold dans Dragon, c'est lui, ouais, aussi. Ouais. Malcolm, c'est lui aussi. Bien sûr qu'on fera d'autres choses avec Tommy. Samy, je crois qu'il est parti à Miami, là, Tommy. Hein? Toy Story aussi, ouais, c'est lui. Je me demande, j'ai pas vu une petite vidéo de Tommy où il est parti à Miami. Un avis sur mon pseudo, Samuel, magnifique. Sois franc. Titeuf, oui, on l'a déjà dit. Jamie Forever, mais tu viens d'arriver. Ou alors tu as 10 secondes de délai. Donc grosse semaine de stream. Et puis dans pas mal de jeux vidéo aussi. Hein. En fait, depuis son enfance, hein, il a commencé très très tôt hein, à doubler. Enfant, il doublait. Ado, il a doublé. Là, il a quel âge? Il a 40. Je crois qu'il a au moins 10 ans de moins que moi, donc 40, 40 et des brouettes. Et en fait, ça fait littéralement. Bah, pas loin de 40 ans qui fait des voix, quoi. Tu vois, il a commencé tout petit, quoi. Eh ben, dis donc. Belle aventure, ça, Smallson. Fatigué, nous dis-tu, quatrième jour à l'Oropiana, événement à Saint-Trope. Une course quotidienne de bateau à voile. Ils partent demain de Saint-Tropez pour partir à Gênes. J'ai hâte que ça se termine. Je suis chef de rang, s'occupe de la partie traiteur, les boissons et la nourriture. Ça mange, les navigateurs, hein. C'est ça, hein. Il a 30 ans de carrière, il a commencé à 10 ans. Voilà. Non, non, il a vraiment commencé tôt au narco. Il n'a pas commencé à bosser à 20 ans, il a commencé à bosser, genre il avait 5 ans, tu vois. Ses premières voix, c'est enfant, 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 quoi. Salut Sidney, BZH. Et il a 43. Voilà. Tiens, imaginons qu'il commence à 8 ans, peut-être 5 ans, j'ai peut-être exagéré, mais il commence vraiment très tôt. Tu vois, 43 moins 8. Ça fait 35 ans, tu vois. On est loin des 20 ans de carrière que certains mettaient en avant dans le chat, quoi. J'ai toujours l'impression que les autres sont plus vieux que moi, ça fait bizarre. Moi, Étienne, je suis rentré dans une phase où j'ai toujours l'impression que les gens sont plus jeunes que moi. Bon. Ah, mais il a eu 20 ans de moins que toi, pas 10, hein. Oh, je suis perdu, bordel, arrêtez. Je suis trop vieux pour vos conneries, là. Je vous demande de vous arrêter. Tout est dans la tête et surtout dans le cœur. C'est très beau ce que tu dis. Jean-Pierre, c'est très beau. Tout est dans la tête et surtout dans le cœur en matière d'âge, en matière de. Et je dirais dans la crème aussi. Hein, moi, vous savez que je me crème. Je me crème. Moi, j'aimerais que sur ma pierre tombale, il y ait cette épitaphe. Donc après ma mort, donc, hein, voilà, puisque un jour je vous laisserai. C'est beaucoup crémé. Je me suis beaucoup crémé, moi. Voilà. C'est beaucoup crémé. C'est crémé avec passion. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, j'ai commencé la télévision très très tôt. Et en découvrant la télé, j'ai découvert quoi? Les maquilleurs, les maquilleuses. Voilà. Et en fait, j'ai trouvé ça fascinant. D'ailleurs, c'est très agréable de se faire maquiller. Non, pas se faire beurrer la biscotte, les gars. Non, se faire maquiller, c'est très agréable. Pourquoi moi j'ai voulu faire de la télé? Parce qu'un jour on m'a maquillé pour une émission de télé. Et j'ai trouvé ça très agréable, tu vois. La maquilleuse, bon, c'est souvent des femmes, hein. Il n'y a pas beaucoup de maquilleurs. Voilà. On te met une petite crème pour t'hydrater un peu, pour protéger ta peau, ok? Voilà, ça nourrit, hein. Après, on te met un fond de teint. Pour les hommes, c'est assez simple, quoi. Un peu de poudre. Éventuellement, on te met un tout petit peu de truc sur les cils, là, sur les sourcils pour soigner un petit peu le regard. C'est très, très. Tu vois, par rapport aux femmes, c'est un peu moins compliqué. Et donc, on te met de la crème. Et après, éventuellement, on te démaquille ou tu te démaquilles de plus en plus tout seul avec des lingettes. Tu mets un petit coup de serpillière. Et puis, tu remets un petit peu de crème pour reprotéger ta peau, quoi. Et ben, comme j'ai commencé à la télé très, très tôt, quoi, on va dire, je sais plus moi. Quel âge commence, moi, première télé? Au début, je fais de la radio pendant 4 ans, 5 ans. Vers 99, on va dire. Oh la vache. Et ben du coup, je me suis mis de la crème. J'ai pris l'habitude de me mettre de la crème. Voilà. Le matin, en me réveillant, et le soir, on me couchait une petite crème, comme ça, pour hydrater, quoi. Et voilà, quoi. Merci Nuno pour le 31e mois. Merci Mister Elia pour le 5e mois. Voilà, la crème. Je suis hydraté un max. Voilà. Bon, à une époque, je m'hydratais différemment. Je mets quelle crème? Je mets une petite crème qui pour supprimer les rougeurs. J'ai une peau fragile. Oui. Donc, je mets une petite crème qui pour éviter les rougeurs. Tout ça. Voilà. Placement de produit, non. Voilà. C'est ça le secret de ma bogositude, ouais. Non, c'est pas une crème de nuit. Je mets pas de crème de nuit, hein. Je mets ma crème du matin, je la mets aussi un petit peu le soir quand je vois que ma peau est sèche, quoi. C'est important, hein, de s'hydrater la peau en vrai pour qu'elle vieillisse. Notamment quand tu vis au soleil, ce qui est pas mon cas. Moi je parfois je vois parfois je vois c'est pas gentil ce que je vais dire. Parfois je tombe sur des je rencontre des gens de ma génération. Hommes ou femmes que j'ai pas vu depuis très longtemps, des gens de mon âge, quoi, j'ai connu dans mon enfance ou mon adolescence, et qui n'ont pas pris soin de leur peau, et qui n'ont pas de routine beauté, hein, ou qui sont un peu trop exposés au soleil. Oh, po, 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 oh. T'as envie de leur dire, mais oh, la vieille peau, oh la vache, t'as pris, hein, t'as pris cher, hein. Dis donc, ça faisait le beau gosse slash la maligne à 20 ans, mais là, dis donc. Bah, où t'as pris, hein? Et là, franchement, je me regarde, je fais, bah, dis donc, y en a un ici qui a fait attention, hein? Bah, ouais, c'est un petit plaisir comme ça. Ah, oui, le soleil, c'est vraiment violent pour le vieillissement, ouais. Ah, oui, taper comme jamais, ouais. Ah, non, mais parfois, pas tous, il y a les gens qui vieillissent très bien, hein. C'est aussi une histoire de génétique, je pense. Voilà. Là, récemment, j'ai croisé plein de potes d'enfance à Rennes pour un événement familial. Et en fait, eux, ils n'ont pas changé. Hein. Ils n'ont pas changé. Même les gars, quoi. Alors, je ne suis pas sûr que c'est dans une crème routine, quoi. Juste parce qu'ils sont cool, je pense. Clamakin is back. Moi, tous les matins, je me frotte le visage avec des ronces. Plus de peau, aucun bouton. Je suis le cauchemar d'entreprise de cosmétiques. Ah, c'est peut-être l'alcool, ouais. Je suis en Bretagne, ouais. Madame travaille dans la société parce que vous le valez bien, me dit Felven. J'ai la totale pour les produits men, etc., etc. Est-ce qu'on n'est pas naturellement hydraté quand on vit à Rennes? Nuno, c'est une bonne remarque. C'est vrai. J'ai vu des photos de camionneurs qui. La fantôme Requiem qui dit. J'avais vu des photos de camionneurs qui étaient plus vieux, plus vieillis. Côté fenêtre. Hein? Mais j'ai pas vérifié, c'était du fake. T'imagines? le camionneur. Donc, s'il roule à volant à gauche, c'est toujours le côté gauche qui est un peu exposé, quoi. C'est pas du fake, me dit-on. C'est vrai. Oh, c'est incroyable. C'est très drôle, ça. Regarde sur Google. Let's go. C'est parti. Ok, ça, c'est. Je pense que c'est l'information du jour, quoi. Ok, alors, camionneur. Soleil. Figaro. Figaro. Le visage qui illustre les ravages des UV sur la peau. Un chauffeur routier ayant passé 28 années derrière son volant présente un étonnant faciès. Le côté droit de son visage paraît vieilli de 20 ans par rapport au côté gauche. Oh putain! William Edward Mac Edigott. Pendant 28 ans, il a roulé aux States avec son camion. Pourtant, il y avait la vitre, hein, mais il y avait les UV qui passaient quand même. Et un jour, ses petits-enfants lui ont dit: « Mais pourquoi tu as des bosses sur ton côté gauche? » Incroyable. Incroyable. C'est drôle. Mettez de la crème solaire. Moi, j'ai longtemps détesté me mettre de. Quoi? Je tombe sur moi. Dans le 12-13 de France 3, le journal de la mi-journée de France 3 que je présentais il y a longtemps. Et je l'ai déjà annoncé. J'en ai déjà parlé. Le vieux. En fait, j'en ai parlé en 2012. À la télé. C'est moi, ça. À l'époque, je mettais la cravate, je n'avais pas découvert les jeux vidéo, tout ça. Incroyable. C'était moi ça. 2012, donc c'est il y a 13 ans. 13 ans. Voilà, j'avais plus de cheveux. J'avais plus de cheveux. J'avais les cheveux. Plus de cheveux. Ils étaient plus noirs aussi, mes cheveux. Voilà, cravate. C'était. Est-ce que j'ai vieilli? On parlait de vieillir. Donc c'était il y a 13 ans. J'ai un peu vieilli quand même. Hein. Ouais. Si j'ai vieilli. J'ai la peau plus pulpée. J'ai perdu du poids, je sais pas. Alors mon épouse me trouve mieux maintenant. Enfin, mieux que quand elle m'a rencontré. Mon épouse, elle m'a rencontré il y a 16, 15, 15 ans, 15 ans. 15 ans, 15 ans. Et elle me trouve mieux maintenant. Je pense que c'est parce que c'est mon épouse. Qu'est-ce que je disais donc? Attends, on va mettre du son un peu, on entend rien.
Encore au 12-13, nous avons tenu à vous montrer cette photo. Regardez ce visage, c'est celle d'un chauffeur routier américain qui a parcouru pendant 28 ans les rues de Chicago à bord de son camion. Le côté gauche de son visage exposé aux rayons du soleil à travers la vitre de sa portière, et l'on peut voir le vieillissement accéléré de ce côté gauche uniquement en raison de l'effet nocif des rayons UV, un cas passionnant pour les dermatologues bien sûr, qui ont pu comparer pour la première fois sur le même visage une peau saine et une peau abîmée par le soleil, les dangers des UV, CQFD.
Inception de fou, les gars. On rigole, on dit des conneries sur les crèmes, sur le vieillissement. À un moment, quelqu'un me sort cette info sur le chauffeur routier. Je dis, ah, c'est marrant, j'en ai jamais entendu parler. Ne vieillissez pas, hein, la catastrophe. On va sur Internet et qu'est-ce que je trouve? Mon moi d'il y a longtemps, qui annonce cette info? Le mec n'a aucune mémoire, quoi. C'est fou ça, c'est très drôle, hein. Meilleure blague de la journée. Non mais c'est étonnant ça. C'est incroyable. C'est fou. Si le Samuel d'aujourd'hui devrait dire quelque chose au Samuel dans la vidéo, il dirait quoi? Rien, rien. Il faut se laisser surprendre par la vie, je lui dirais rien. Si je lui donnerais les numéros de l'Euromillion, c'est tout. Sam, as-tu pris tes cachettes? Tu en as déjà parlé la semaine dernière. Tu vas sur Twitch. Twitch n'existait pas à l'époque. Ah si, go investir dans le Bitcoin aussi, ouais. Ouais. Euromillion et Bitcoin. En fait, je gagne à l'Euromillion et je mets tout sur le Bitcoin. Ha ha! Après, je rachète la planète. Imagine, tu gagnes à l'euro million, tu mets tout sur le bitcoin, tu rachètes le monde. Tu rachètes le monde, pas le journal, tu rachètes la planète. Hein. Musk, tout ça, c'est de la. Les mecs, c'est... je vais les prendre en stagiaire, quoi. Imagine. Imagine, tu reviens en arrière, tu te fais, je sais pas, à l'époque, tu te fais 100 millions d'euros. Tu mets tapis sur le bitcoin à l'époque quand ça vaut rien, là. Hein. T'imagines, tu es le maître du monde. Putain. Ah la vache. Tu deviens président de... Tu ouais, non. Hein. Tu aurais revendu avant, mais non, parce que... Mais non, non, je me serais mis une petite note du futur, tu sais. Voilà. PS, tu vois. Note du futur, Samuel, au Samuel du passé. Deux points. Voici les numéros de l'euro million de vendredi. Voilà. 100 millions, bam. Deux, renseigne-toi sur le bitcoin, fais all-in sur le bitcoin. Fais-moi confiance. Je mets confiance en capital, je souligne trois fois. Voilà. Troisième petite note. Voilà. Et garde-les. Longtemps. Longtemps. Tu vois. Oh la vache. Putain. Mais peut-être que si tu fais ça, tu viendras jamais sur Twitch. Mais si, mais si, mais si. L'appel de Valorant sera toujours plus fort. Bon, les amis. 32 minutes d'introduction. C'est assez long. C'est pas parce que... Putain, je vais le dire à Lucie, ça. Attends, qui s'occupe de ma chaîne TikTok. Elle va rigoler le truc de ce matin. Elle va rigoler. Coucou Lucie, virgule, à l'instant en revue de presse, virgule, on a cherché une info sur le vieillissement de la peau, virgule, une histoire de routier qui n'était abîmé que d'un côté de son visage, point. Et on a bien ri parce qu'on m'a trouvé, moi, en 2012, dans un JT, en train d'en parler. Point. C'était assez drôle pour l'exclamation. Je te laisse regarder si tu veux faire quelque chose avec ça. TikTok baby, TikTok baby. Voilà, TikTok ça. La probabilité que tu tombes sur le même article et tu tombes sur ton toi du passé. C'est fou, hein ? C'est fou, ça. Bon ! Beef Tannen, bien sûr, Captain Oui. Beef Tannen, bien sûr, j'ai la ref. C'est la rétrocausalité. Peut-être, Minimor, je te fais confiance là-dessus. Mais c'est quoi cette pluie de sub ? Hier soir, on a eu une pluie de sub, bon, notamment trois donateurs foufou. Après le stream, je leur ai rien dit sur le coup. Je les ai mis en VIP parce que vraiment, ils ont pété un câble, quoi. Donc, je les ai passés tous les trois en VIP. Agalotte, Haruko et Damon, là. Ils sont pas là ce matin, mais ils le verront quand, la prochaine fois qu'ils vont se connecter. Et ça continue ce matin. Lucas, Malcrim, Nemselt, Iragzl, j'espère que je prononce bien. À tous les quatre, merci beaucoup pour ces soutiens, en vrai. C'est adorable. Bon, est-ce que... Salut, Picsou. Est-ce qu'on se fait un petit sommaire ? Ça vous va ? On fait ça ? Je vous montre ce qu'il y a dans l'actu ce matin. Il y a des choses assez intéressantes, en vrai. Ouais, c'est parti ? Ok. Hop, voilà, c'est parti. Regarde, c'est comme hier. Râleur, 5 abonnements à la communauté. Pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, mais 5 abonnements à la communauté offerts. Râleur, tu régales. Merci. Merci, vous êtes formidable. Merci du soutien, merci de la force. C'est grâce à vous qu'on est là. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a ce matin ? Alors, on a vraiment des trucs intéressants. Je trouve que les journaux se décarcassent un peu en ce moment. L'actualité a du talent, comme on dit parfois chez les journalistes. Alors hier, grâce à vous d'ailleurs, on est allé sur l'histoire du bateau de Gaza. Là. Le bateau a résonné, les gens arrêtés là par Israël. Donc on s'est penché dessus avec les premiers articles sur Internet. Il n'y avait pas encore les articles dans les journaux parce que c'était passé dans la soirée, dans la nuit. Et comme je le prévoyais, il y a des articles ce matin. Je vous ai mis deux articles de côté là-dessus. On commencera par Libération. Je vous mets peut-être la scène. C'est page 14. Vous voyez qu'on parle du Rassemblement National en une de Libé. Mais on va en parler également. Je vais passer 14 dans Libé. Voilà, on va commencer par ça aujourd'hui. Là où la page 14. 11, 12, 13, 14. Le bateau humanitaire qui faisait cap sur Gaza, intercepté par Israël. Voilà, on va parler de ça. L'humanité, on parle beaucoup ce matin aussi. Alors c'est drôle parce que regardez. Comme c'est étrange. Voilà, cet article dans Libération est page 14. Et devinez où est l'article de l'Humanité sur ce sujet. Vous ne devinerez jamais où. Hop, j'ouvre l'Humanité. Toujours un petit peu long, l'humain. Faut le mériter, l'humain. Ça s'ouvre doucement. Voilà. Devinez. Page 14, exactement, Burberry. Ha ha ! Très étrange, on nous cache des choses. Non, je blague, bien sûr. Le détournement du Madeleine est un acte de piraterie d'État. Voilà, ce sont les mots de Fabien Gay, qui est le directeur de l'Humanité. L'arraisonnement par l'armée israélienne du voilier chargé d'aide humanitaire. Ouais, enfin, d'aide humanitaire. Non. Il était chargé de pas grand-chose, en vrai. Vous le savez, c'était un trajet symbolique pour ouvrir la route, la voie de l'aide humanitaire qui est bloquée. Il y a blocus maritime autour de la bande de Gaza. Donc, chargé d'aide humanitaire, non. Non. Non, franchement, quand tu vois la taille du bateau, tu mets... Mais peu importe, c'est un détail. Mais c'est une petite erreur factuelle. Donc, chargé d'aide humanitaire à destination de la bande de Gaza. Oui, Fabien Gay, qui était aussi député... Alors, Doc Jordan, insoumis, je dirais communiste, pour être plus précis. Hein, hein. Communiste. Ou sénateur, d'ailleurs, plutôt. Ouais, Sugar, sénateur. Ouais. Adhésion de la bande de Gaza sous blocus et l'arrestation de 12 militants qui se trouvaient à son bord bafoue le droit maritime. Article biaisé orienté. Ben, en fait, article, tu ne le sais pas, mais tu devrais le savoir. L'humanité joue un joint communiste. Donc, que cet article soit écrit par un communiste, dans un journal communiste, n'est pas. En soi, une chose très étrange. En fait, c'est assez cohérent. Mais ça, il faut le savoir. Mais c'est écrit. C'est écrit. Enfin, l'Humanité ne le cache pas. C'est juste un journal communiste, quoi. Donc, jusque-là, c'est assez cohérent. Donc, orienté, biaisé, si tu veux. Mais en tout cas, qui ne se cache pas. Hein, il signe sous son nom. Tout le monde sait qui est Fabien Gay. Voilà, il n'y a aucun problème, quoi. L'important, c'est pas tellement d'avoir des opinions, c'est de ne pas les cacher. Hein. Pour que vous puissiez, vous, analyser. Effectivement, c'est un article biaisé et orienté par les valeurs, par les convictions de la personne qui a écrit cet article. Voilà. Et donc, n'oubliez pas que, comme on appelle ça, ce mot qui ne veut rien dire, la neutralité n'existe pas, journalistique. Souvent, on me dit, mais alors Samuel, quel est le journal le plus neutre, selon toi ? Donne-moi un exemple d'un média qui est neutre. Mais il n'y a aucun média qui est neutre. Un média est toujours traversé par des valeurs, des opinions, des biais, conscients ou inconscients, liés à l'histoire et la formation intellectuelle des journalistes, voilà, de leur choix. Et même quand un journaliste va vous dire « mais moi je suis neutre », et vous lui dites « et non, mais non, mais aucun ». Burberry dit « Mediapart », mais non. Aucun. Hein. Très belle phrase de Myriam, la neutralité journalistique est une boussole, mais ça n'est pas une réalité en soi, bien sûr. Même un journaliste ou un journal qui va dire « moi je suis neutre », non, non, tu es, et c'est normal et c'est très bien, tu as des valeurs, tu devrais en avoir conscience d'ailleurs, normalement. Voilà. Et ces valeurs, que tu le veuilles ou non, on les retrouve dans ta plume. Voilà. Ouais. Et c'est pas mal en soi d'ailleurs. Hein. Selon l'endroit où tu es né, selon de l'éducation que tu as reçue, selon que tu es né sur le continent européen, africain, asiatique ou américain, ou océanie, selon... oui, je parlais de l'éducation, ta famille, tes amis, tes rencontres, tes lectures, voilà, tu es biaisé. Mais ça n'est pas grave en soi. Ça n'est pas grave en soi. Il faut juste le savoir. Voilà. Bon, là, on a un biais qui est communiste. Mais ça n'empêche pas que Fabien Gay a sûrement écrit un très bon article. Donc, bafoue le droit maritime et la liberté de venir en aide à un peuple exposé au massacre, au nettoyage ethnique, au génocide. Voilà. On va se pencher là-dessus ce matin. C'est bien, ça fait déjà beaucoup réagir. Donc, attendez, dans le sommaire, on ne va pas faire le débat avant le débat. Donc, deux articles sur ce sujet. On va pas mal parler de poétique, il y a des choses intéressantes ce matin. Mais j'en ai pas fini avec la Palestine, parce que 30 ans de réflexion sur le sujet m'ont amené, moi, à la conviction qui n'est que ma conviction, et je peux me tromper, que je reste avec l'Humanité. Un journal qui s'intéresse aux Palestiniens depuis très longtemps. Historiquement, je dirais que l'Humanité est un journal pro-palestinien. C'est un biais. Voilà. Depuis toujours. Ça fait partie de l'histoire de l'humanité. Et personnellement, je peux me tromper, ma conviction en 30 ans de réflexion sur le sujet du Proche-Orient, c'est que la solution ne peut venir que de la communauté internationale. Et à minima, de la reconnaissance d'un État palestinien et un jour d'une coexistence pacifique entre deux États que seront l'État d'Israël et un État palestinien, qui n'existe pas aujourd'hui. Voilà. On le sait en fait depuis toujours, mais sauf que jusqu'ici, on ne s'en est pas donné les moyens. La communauté internationale. On parle dans les jours prochains d'une reconnaissance de l'État palestinien par la France, avec un discours du président Macron. On l'attend. Reconnaissance de la Palestine, dans quelles conditions? Il y a une série de plusieurs jours de réflexion sur dans quelles conditions cette reconnaissance de la Palestine. On va trouver ça, je trouve ça intéressant. La conférence internationale co-présidée par la France et l'Arabie Saoudite pour relancer une solution pacifique dite à deux États aura lieu du 17 au 20 juin au siège des Nations Unies à New York. Si jamais le président Macron prononce un discours actant de la reconnaissance de l'État palestinien par la France, ce sera peut-être à cette occasion. Peut-être, voilà, on va voir. C'est la diplomatie, c'est Macron qui décide. Ni le chat et ni moi. On verra bien. C'est de la poétique. On peut toujours avoir des surprises, bonnes ou mauvaises. Rappelez-vous la dissolution, personne s'y attendait. Oh, quelle transition, puisqu'on va beaucoup en parler de la dissolution ce matin, parce qu'on a un anniversaire à ce propos. Mais avant de parler de l'anniversaire de la dissolution, avant de parler du Rassemblement National, avant de parler du président Macron. Et si on augmentait encore l'âge légal de départ à la retraite ? Vous savez qu'il y a une partie de la classe politique française qui se bat pour revenir à avant. On a augmenté l'âge légal de départ à la retraite. Il y a des partis politiques qui se battent pour le rebaisser. Et ben moi, j'ai trouvé des gens qui voudraient qu'on l'augmente un petit peu. Pardon, j'ai encore tapé sur la table. 95 ans ou rien. Pas encore, mais on va y arriver. Attendez, page 8 dans Le Monde. C'est là. Ah, Le Monde, parfois, il est coquin. Attends, peut-être faire une capture d'écran. Voilà, sinon je fais une capture d'écran. Viens bébé. Je pars d'ici. Reste, Tyson, on va bien rire. Il y a des gens qui veulent qu'on pousse encore plus loin. Attends, je te fais une petite capture d'écran là. Voilà, c'est bon. Regarde, retraite à 130 ans, on n'en parle plus. Mais oui, mais Ron Deal, mais moi aussi je suis d'accord. À un moment, qu'on nous mette la retraite à 130 ans, hein, qu'on nous fasse cotiser toute notre vie sans jamais pouvoir en profiter. Et puis comme ça, les caisses seront pleines, hein. Comme ça, on aura réglé tous les problèmes. Voilà. Alors, c'est quelle page? J'ai pas pris la bonne page. C'est page quoi? Page 8. C'est pas dans Le Monde? Je m'ai trompé? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ah oui, ça, c'est le supplément, c'est pour ça. Il y a un supplément. Voilà. Regardez. Le Conseil d'orientation des retraites, le fameux COR, suggère un recul de l'âge de départ. Pop. Dans son rapport annuel qui sera publié le 12 juin, mais ici on a toujours un petit peu d'avance, l'instance examine les leviers mobilisables pour combler le déficit annoncé. Donc parmi les leviers mobilisables, un nouveau report de l'âge légal de départ à la retraite. Voilà, par exemple, 64,3 en 2030, 65,9. Allez les gars, arrondissez à 66, arrêtez de vous foutre de notre gueule, en 2045, et 66,5 en 2070. Ah ben voilà. Donc je vous parlerai de ça ce matin. Ça m'a semblé assez intéressant quand même. Comme dit Léo Game, sinon on supprime la retraite, puis voilà, hein, puis ce sera plus simple. On va se pencher sur ce sujet. Et puis beaucoup de politique ce matin, je crois qu'on commencera par le Rassemblement National. Alors c'est marrant, j'ai une série d'articles en ce moment qui disent « Ouais, le Rassemblement National, ça va pas très fort, je comprends pas trop, parce que la dynamique dans les sondages est quand même très forte. Mais, je sais pas, certains analystes de la vie politique trouvent que le RN a des soucis qui sont compliqués à régler. Regardez, dans Le Parisien, le RN fête la victoire et veut oublier ses déboires. La victoire, c'était le bon score aux législatives il y a un an, parce que c'était il y a un an. Dans le Loiret, le RN a rassemblé lundi ses partenaires européens pour célébrer leur percée électorale d'il y a un an. Selon le parti, 6000 sympathisants étaient présents. Alors, quels sont les déboires du RN? Moi, je trouve ça plutôt intéressant. Oui, oui, Marine, tout le monde le sait que Marine est inéligible. Burberry, il fait sa revue de presse en ce moment. Il fait sa revue de presse, mais à côté, parallèlement. Je tease. Mais si je dis tout maintenant, il n'y a plus de revue de presse. Oui, c'est notamment, mais pas seulement, l'inéligibilité de Marine Le Pen, bien sûr. Ben Burberry, il dit tout maintenant. Il est en train de me niquer ma revue de presse, bordel. C'est incroyable ça. Donc on va se pencher là-dessus. Et puis, vous l'avez peut-être vu rapidement, les plus attentifs, qu'il y a carrément la une de Libération qui est consacrée au RN ce matin. Voilà. Ah oui, mais Burberry, bordel, tu mâches le travail, ça va pas du tout. Alors, vous vous rappelez, il y a un an, donc il y a eu les législatives, et puis il y a eu des candidats RN qui étaient, oh là là, qui étaient un peu, comment dire, un peu bizarre. Mais non, un peu raciste, quoi. Un peu raciste, un peu, qui avait pris des prises de position sur les réseaux sociaux, notamment, qui étaient, waouh. Et même à l'époque, Jordan Bardella avait dit, c'est pas possible, ça. Ça, ces gens-là, on va les mettre dehors, quoi. Voilà. Et alors, Libération a enquêté un an après, et puis a constaté que ben, la plupart de ces gens, ils étaient encore dans le parti. Aïe. raciste, antisémite, complotiste, comme ils y vont, Libé. Hein. Et toujours au RN. Bon. C'est bien finalement qu'un parti puisse rassembler ces gens-là, parce que comme ça on peut les retrouver plus facilement. Je sais pas, c'est un côté un peu pratique, mais bon. Lors des législatives de 2024, l'IB identifiait 120 candidats, pas des militants, des électeurs, candidats, hein, tenant des propos en contradiction avec la volonté affichée par Marine Le Pen de dédiaboliser son parti. Un an plus tard, la plupart sont restés membres, d'autres ont même fait leur apparition, il y en a des nouveaux. Les fâcheux pas chassés. Voilà. Un an après nos révélations, parce que c'est Libération qui avait beaucoup bossé sur le sujet, sur les saillies xénophobes, antisémites ou complotistes de candidats du parti aux législatives, hein, il n'y en avait pas un ou une qui avait posté un petit peu en uniforme SS avec des casquettes, tout ça là. Le parti n'a pas procédé au grand ménage promis, Libé fait le point sur le devenir de ses cadres. Voilà, on se penchera là-dessus rapidement. Comment ça, c'est comme les Pokémon ? Hein ? Si, c'est ça. Oui, elle est de chez moi. Oui, il y a plusieurs même, la casquette là. Ouais. Merci, monsieur Nuggets. C'est bon, Nuggets. Pour ceux qui demandent l'orientation politique des médias, Libération est plutôt de gauche, dans Tilk FR, comme on le devine à 7-1. Non, Libération n'est pas plutôt de gauche. Non. Libération est de gauche. Ça c'est pareil. C'est écrit noir sur blanc dans Libération depuis toujours. Non, Libération n'est pas de centre-droit, prof interne. Non. Non. Libération est historiquement, et c'est totalement revendiqué par Libération, un journal de gauche. Voilà. Non, c'est pas un journal de centre-gauche ou de centre ou de... Voilà. Et ils en sont fiers. Arrêtez un moment. C'est un journal de gauche qui n'avance pas masqué. De même que le Figaro, un journal conservateur de droite. Quoi. Voilà. C'est pas une info en soi. C'est pas une info. Ah ouais, c'est vrai que, remarque, oui. Alors certains diront que c'est pas la gauche qu'ils veulent. Ça, c'est autre chose, ça. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de vous lire encore ? Vous êtes en forme ce matin, j'aime ça. J'aime bien cet esprit là, un petit peu combatif, c'est beau. D'ailleurs, si on change 6 lettres à Libération, me dit Magros, comment vas-tu mon ami ? Ça fait gauche. Regarde, tu prends Libération, tu changes 6 lettres et ça fait gauche. Vous voyez ? Ha ! CQFD, merci beaucoup. Merci Magros. Voilà. Donc ça, c'est le RN. Et puis, donc il y a un an, c'était... les législatives, et cette décision un peu étrange et hasardeuse du président Macron de dissoudre l'Assemblée, où il a obtenu une majorité encore plus faible qu'avant, c'est-à-dire pas de majorité du tout, et c'est l'occasion de faire un petit peu un bilan, on a commencé déjà hier à en parler, voilà, et on en reparle ce matin. C'est où déjà ? Ok, ça c'est autre chose, ça c'est pas mal ça. Alors notamment dans la Croix. Ah oui, ça c'est drôle ça. Très drôle. Et si, ça, on va parler de cette une qui est vachement intéressante. Et si Macron prononçait une nouvelle dissolution à l'Assemblée ? Bah oui, parce que à partir de je sais plus quand, là, juillet là, ou août, je sais plus, Ça fera un an que les élections se seront tenues. Donc le cooldown de la dissolution, qui est d'un an, constitutionnellement, est terminé. C'est comme quand tu récupères ta flash sur quand t'es Gecko sur Valorant. Tu vois, il faut attendre un petit peu. Et là, tu peux remettre ta flash. Et ben là, Macron, c'est ça. Il peut faire ça. Sauf qu'il n'a pas les cheveux jaunes, en fait. C'est la différence. C'est le 7 juillet ? Voilà. C'est la fin du cooldown. Alors, il pourra le faire. Va-t-il le faire ? C'est la question. C'est la politique. Tout est possible. Voilà. On en a parlé, mais on ira un peu plus loin. On en a parlé hier, mais on ira un peu plus loin. Donc, question. Et puis, l'occasion d'un bilan, je crois que c'est Le Monde qui en parle. Oh, oh oui, j'aime ce titre. Le poison lent de la dissolution. Il est beau cet article. Oh, Macron et le poison lent de la dissolution à l'Assemblée. De l'Assemblée. La décision de convoquer les élections législatives anticipées au soir des européennes, qui avait été une catastrophe pour la majorité de l'époque, le 9 juin 2024, devait permettre de clarifier le débat public. Elle a au contraire aggravé les difficultés politiques et économiques du pays. Voilà. Donc, alors, il y a une personne qu'on n'est pas persuadé en France que c'était une mauvaise idée, c'est le président Macron. Il continue à dire oui, mais non, on n'a pas trop compris, mais en fait, j'avais pas trop le choix, blablabla. Voilà. Mais voilà, Le Monde nous dit que c'était quand même la pire idée, quoi. La machine de l'État bloquée en l'absence de ligne politique claire, alors que l'activité des députés alimente l'illusion d'un système qui agit, l'administration est figée face à des injonctions contradictoires. Je vous résume ça, c'est le bordel. Voilà. Dis donc, Cyril, t'es très en forme, toi, mon Cyril 85-74. Caius, il est possible qu'il ne dissolve pas l'Assemblée et la laisse pour obliger tout le monde à s'entendre. Exactement. Ouais, exactement. Il peut dissoudre ou pas dissoudre. Voilà. Vous avez tout compris. Donc ça, c'est pour Macron. Et est-ce que j'ai encore autre chose à vous raconter ce matin ? Pop 8. Oh oui, ça c'est incroyable. C'est intéressant. C'est la une de la Croix. Grand progrès pour la qualité de vie des patients. Je connais pas trop ça, moi. L'hospitalisation à domicile contribue aussi à la maîtrise des dépenses de santé. C'est bien pour les patients. C'est bien aussi financièrement. L'Assemblée nationale examine mardi 10, c'est quand ça ? C'est aujourd'hui. Le projet de loi d'approbation des comptes de la Sécu pour 2024. Merci Eretwig pour le Prime. Vous êtes trop fou de soutien en ce moment. Merci beaucoup. Une info légère peut-être ? Ah bah celle-là, Myriam, c'est la plus légère que j'ai ce matin. Hein. Moi, je suis très pour aider la santé mentale des gens. La revue de presse, c'est quand même une litanie de mauvaises nouvelles. C'est pour ça que je me suis mis aux jeux vidéo, c'est pour me changer les idées en fait. Alors que les dépenses de santé sont jugés hors de contrôle par la Cour des comptes, l'hospitalisation à domicile figure parmi les pistes d'économie importantes. L'HAD représente aussi un grand progrès pour la qualité de vie des patients et redonne du sens au travail des soignants, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. C'est un peu ma bonne nouvelle de ce matin, ça. Voilà. Moi, je connaissais pas trop ce sujet. Camille, à ce soir. Bonne journée à toi. Et donc, on va se pencher là-dessus. Et il me reste une dernière info, je crois. Ben non. Ah si ! Oh si, c'est intéressant ça ! Un truc pour vous les jeunes. L'année de césure après le bac, c'est dans l'Opinion, journal libéral proche des entreprises. Bah alors l'Opinion, tu veux pas t'ouvrir ? C'est page 10, je crois. Non, page 5. Théma. C'est où ça ? Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi Borne, Elisabeth Borne, vous vous souvenez, l'ancienne première ministre qui est ministre de l'Éducation, encourage l'année sabbatique après le bac. Merci Jeannot. Mais folie de soutien, merci pour le sixième mois. Service civique, stage, voyage, cette césure à la sortie du lycée permettrait aux jeunes d'affiner leur projet d'études. Ça se fait dans plein de pays. Sully Prophète parle du Danemark dans le chat à l'instant. Après le bac, après le lycée, tu prends une année. Voilà. Dans le plan Avenir présenté par la ministre, l'accent est mis sur l'amélioration de l'orientation, aujourd'hui angle mort de l'éducation nationale. C'est clair que l'orientation, c'est pas top. Hein. C'est déjà pas top à mon époque, ça n'a pas beaucoup changé. Quoi. Les mesures annoncées concernent élèves et professeurs de la 5e au post-bac. et on se penchera sur ce projet d'Elisabeth Borne de développer ce qu'elle appelle la césure. Voilà. Marrant. Débat. Hein, le débat déjà lancé dans le chat. Voilà. Elle l'encourage parce que plus de place dans les écoles et facs après Parcoursup. Je n'ai rien contre les années sabbatiques, mais surtout de sa bouche, ça tourne surtout comme cassez-vous, ça nous fera des économies pendant un temps. C'est très bien, je trouve, ça permet de souffler, d'écrire une ouverture d'esprit. C'est bien une idée de riche, ça, Jérôme Musique. Pour bosser gratos, pour gagner de l'expérience, me dit what am I doing here? Je l'ai fait, c'est top pour apprendre une nouvelle langue et faire de belles expériences que l'on ne peut plus faire par la suite quand on travaille, me dit Sacha. Mais jamais j'aurai les moyens de faire ça, me dit Mario. Ok. Et vous êtes tellement réactif que on n'a pas commencé à lire les articles, le débat est déjà là, c'est formidable. En Allemagne, tous les étudiants font ça, mais en France, c'est mal vu, c'est mal fait. Moi, j'ai jamais compris comment ça se passait. Merci Pimnet pour ce troisième mois d'abonnement, vous êtes incroyable. Meilleure proposition pour l'éducation qui a été proposée depuis longtemps. Merci Super Patate Bleue. Et j'aime ton pseudo. Merci pour ce prime, merci pour ce soutien. Bon là, ça, on se fâche dans le chat. Hein. Réma dit, la mentalité française pleurait en demandant avec quel argent. Mes parents sont smicards, ne m'ont jamais rien donné. J'ai bougé mon cul et j'ai bossé. J'ai réussi à partir et voyager. Allez, bam, ça tire à balle réelle. Allez, on y va, c'est parti. On a fait une intro, on a fait le sommaire, l'essentiel en quelques minutes pour ceux qui ne peuvent pas rester avec nous toute la matinée. Et maintenant, on part pour les journaux. On va commencer par Gaza. Allez, je crois qu'on commence avec Libé, page 14. Hop, hop, hop. Alors, hier, on a déjà parlé en début de revue de presse de cette histoire, avec les premiers articles en ligne, et maintenant, ce sont les articles qui ont été mis en page et bouclés hier soir. Quoi. On l'espère avec un peu de recul, avec un peu d'infos. Quoi. Le bateau humanitaire qui faisait cap sur Gaza, intercepté par Israël, ça vous le savez. Le Madeleine, c'est son nom. Donc là, on voit la taille du bateau, c'est un petit bateau. Hein. Merci, faut que je m'applique, attends. Skadska Parmal pour ce 20e mois d'abonnement, vous êtes incroyable. Donc le bateau a été arraisonné dans la nuit de dimanche à lundi par Tsahal, c'est l'armée israélienne. Arrivé dans l'état hébreu, les membres de l'équipage, dont Greta Thunberg et Rima Hassan, la députée française, la députée européenne, ont été invités à retourner dans leur pays respectif. C'est la correspondante à Jérusalem de Libération. Nos volontaires pacifiques ont été percutés et interceptés avant que des forces israéliennes n'arrivent à bord du navire. Nous avons perdu tout contact avec eux quelques secondes plus tard. C'est l'ONG Freedom Flotilla Coalition, Coalition de la Flottille pour la Liberté, qui a ainsi communiqué. L'agence France Presse a confirmé lundi soir, que le Madeleine était arrivé à Ashdod, ce grand port commercial du sud d'Israël. Il allait vers la bande de Gaza, il a été détourné vers Israël, vers Ashdod, et folie de sub depuis hier. Toweli, merci pour les 5 abonnements offerts à la commu. Merci de ton soutien. Ça sub tellement. Donc j'ai vu les 5 abonnements de Toweli, mais je n'avais pas vu que Skatska Parmal, qui a pris un abonnement pour lui, a offert 10 abonnements à la communauté. Vous êtes incroyable. Merci du soutien. Merci à tous les deux. Ashdod. Ah, il y a 2D. Ashdod, tu as raison. Donc, grand port commercial du sud d'Israël. Le message d'annonce de l'interception du navire posté par l'organisation, donc l'ONG, dans la nuit de dimanche à lundi, sur plusieurs réseaux, a marqué l'échec concret de l'initiative humanitaire du Madeleine, partie d'Italie le 1er juin, en direction de l'enclave palestinienne, échouant sans grande surprise, écrit Libération, à atteindre son objectif de briser le blocus israélien à Gaza. Bon, vous avez vu la taille du bateau. Bon, c'est pas les c'est pas ce que transportait ce bateau qui allait évidemment résoudre la crise humanitaire à Gaza. C'est un tout petit bateau. Et c'était un trajet, un voyage symbolique pour briser le blocus israélien de Gaza, qui est un blocus maritime, qui est légitimé par l'État d'Israël, en expliquant que c'est pour interdire les armes de parvenir au Hamas. Échouant sans grande surprise à atteindre son objectif de briser le blocus israélien à Gaza, elle aura cependant rencontré un écho international grâce aux millions de vues générées par les vidéos de la douzaine de volontaires internationaux à son bord, parmi lesquels la militante suédoise pour le climat, Greta Thunberg, et plusieurs activistes originaires d'Allemagne, du Brésil, de Turquie, d'Espagne, des Pays-Bas et de France. Des images diffusées par le mouvement, donc l'ONG, montre des militants portant des gilets de sauvetage, les mains en l'air au moment de l'interception, qui s'est apparemment déroulé sans violence, certains remettant leur portable conformément aux instructions. Peu de temps avant, certains avaient jeté leur téléphone portable par-dessus bord. D'autres images, diffusées cette fois par l'armée israélienne, montrent une distribution de sandwichs et de bouteilles d'eau aux passagers interpellés. À bord du Madeleine se trouvaient 6 ressortissants français, puisque vous êtes nombreux à me parler de Rima Hassan, la députée française, députée européenne, dont le Quai d'Orsay a annoncé lundi matin vouloir faciliter le retour rapide en France. Rima Hassan, députée européenne de la France insoumise, merci pour, à cet abonnement, à cet utilisateur anonyme qui vient d'offrir un abonnement à la commune. Rima Hassan avait demandé mercredi à Emmanuel Macron de protéger l'embarcation alors qu'elle se trouvait sur celle-ci et de cesser de faire livrer des armes et munitions à Israël. Appel resté sans réponse. Depuis que nous avons eu connaissance de leur projet, contre les risques duquel nous les avons mis en garde, nous avons été en lien avec les autorités israéliennes pour prévenir tout incident, a expliqué le ministre français des Affaires étrangères, qui a appelé dans le même temps le gouvernement israélien à permettre l'accès immédiat, massif et sans entrave de l'aide humanitaire à Gaza. Cette aide humanitaire empêchée, limitée, ce qui est évidemment un scandale. Côté israélien, l'interception du navire Maldine n'est qu'une menace mise à exécution. Le ministre de la Défense Israël Katz, qui est un ministre d'extrême droite, a annoncé avoir demandé à l'armée de montrer aux passagers du bateau la vidéo d'horreur du massacre du 7 octobre à l'arrivée au port d'Ashdod, qualifiant Greta Thunberg, que j'ai citée plus tôt, d'antisémite, accompagnée par des amis qui soutiennent le Hamas. Rappelons que être pro-palestinien et soutenir le peuple palestinien ne fait pas de vous un antisémite. Sauf si vous tenez des propos antisémites, bien sûr. Au sein de l'État hébreu, certaines organisations comme le Centre juridique pour les droits des minorités arabes en Israël ont exigé la libération immédiate des passagers du voilier humanitaire ainsi que la divulgation de leur sort après une interception jugée illégale. Vous avez des Israéliens qui jugent cette interception illégale. Rappelons que le peuple israélien est divisé sur la question palestinienne, contrairement à ce que certains pensent. La flottille n'a jamais pénétré dans les eaux territoriales israéliennes, n'avait pas l'intention de le faire. Le Madeleine naviguait dans les eaux internationales où Israël n'a aucune juridiction ou autorité légale. Selon l'équipage du navire et l'ONG Adala, une substance blanche non identifiée a été larguée par des drones sur l'embarcation peu avant l'arrivée des forces militaires israéliennes à son bord. De part et d'autre de la ligne verte, l'approche du voilier humanitaire et de ses 12 passagers aura fait l'objet d'une nouvelle guerre d'images. En Israël, le surnommé « Celebrity Yacht » a été l'objet de nombreuses railleries sur les réseaux sociaux. Moquerie, quoi. Libération rappelle que Gaza fait face à un risque critique de famine, selon l'ONU, qui estime que 22% de sa population entre actuellement dans une situation catastrophique. Israël a autorisé le 19 mai la reprise de l'entrée d'une aide limitée via un point de passage à Kerem Shalom, après 11 semaines, c'est énorme, de blocus total, mais son acheminement au compte-gouttes a créé des scènes de chaos et fait plusieurs morts et blessés. Je vous lis un peu et on va lire l'article de l'Humanité, qui est un journal qui est encore plus engagé du côté des Palestiniens et qui dénonce un scandale. Merci Pauline. Merci pour ce... Quoi, 45e mois ? Merci Pauline. Clairement un acte de piraterie pour Thunderbolt. Je remonte dans le chat, je lui voulais un petit peu sur le sujet. Quel est le but d'Israël? Je comprends toujours pas, me dit Popisan. Alors, je préfère poser la question en ces termes. Quel est le but du gouvernement israélien? Parce qu'il est compliqué de, même s'il y a des sondages sur le sujet qu'on a déjà évoqué ici, il est compliqué de, et erroné, intellectuellement parlant, de confondre, merci Legend of Tomorrow pour ce soutien, c'est adorable, de confondre le gouvernement, l'État israélien et le peuple israélien. C'est comme si vous confondiez le peuple français et son gouvernement. C'est comme si vous disiez de l'extérieur, bon, Macron a dit ça, donc les Français pensent que. Vous me diriez, bah non, va te faire foutre. Hein. Ou Bayrou veut faire ça, les Français sont d'accord. Bah, vous me diriez, bah non, non, bah c'est pareil. Voilà. Quelle est la proportion d'Israéliens qui soutient le projet actuel du gouvernement israélien, qui est de chasser tous les Palestiniens de la bande de Gaza? Voilà. Il y a des sondages qui semblent dire qu'aujourd'hui une majorité d'Israéliens soutiennent cette politique, notamment après les attentats du Hamas. Voilà. Mais qui connaît un peu l'histoire de la région et d'Israël sait que en Israël, il y a toujours eu des gens qui étaient pour la paix, qui sont moins nombreux aujourd'hui depuis les attentats, mais il y a toujours eu des gens qui ont voulu la paix avec les Palestiniens. En rappelant que c'est un gouvernement d'extrême droite. Alain, tu as raison. Alors Netanyahou est une figure traditionnellement de la droite, mais qui s'est allié avec l'extrême droite dans le cadre d'un régime parlementaire qui a besoin d'alliances entre les partis. Tardigrade Explorer, et l'État israélien se cache aussi pas mal derrière l'antisémitisme. Dès que quelqu'un n'est pas d'accord avec eux, c'est clairement un détournement du sens du mot. Tu as raison. Tu as raison. Ce gouvernement, notamment son ministre de la Défense, là, qui est une personnalité d'extrême droite, sort le mot antisémitisme pour qualifier toute personne qui s'oppose à l'actuelle politique d'Israël envers Gaza. On peut être contre la politique israélienne vis-à-vis des Palestiniens sans être antisémite. Même si certains propos parfois de certains responsables confinent à l'antisémitisme. Hein, il faut décortiquer en fait les prises de position de chacun de façon très très précise, quoi. Allez, on va plus loin avec l'humanité, regardez. L'humanité, page 14 également, bah, dénonce très, très clairement ce qui vient de se passer. C'est donc Fabien Gay, qui est le directeur de l'humanité, qui est aussi un élu communiste par ailleurs, parce que je vous rappelle que l'humanité, pour ceux qui l'ignorent, est un journal communiste, écrit, alors c'est extrêmement clair, le détournement du Maline est un acte de piraterie d'État. Bon, c'est pas la première fois que le gouvernement israélien est hors la loi. Hein. Je rappelle que parmi les nombreuses violations du droit, et notamment du droit international, figure la colonisation des territoires occupés, la colonisation illégale, notamment en Cisjordanie, condamnée par la communauté internationale régulièrement, mais ce gouvernement n'en a cure. L'arraisonnement par l'armée israélienne du voilier chargé d'aide humanitaire à destination de la bande de Gaza sous blocus et l'arrestation des 12 militants qui se trouvaient à son bord bafoue le droit maritime et la liberté de venir en aide à un peuple exposé au massacre, au nettoyage ethnique, au génocide. Cotan, tu n'es pas obligé de suivre cette revue de presse. L'Humanité est un des journaux que je lis, parmi les autres. Voilà, un journal qui n'avance pas masqué, dont on connaît les idées. Si ça te saoule, libre à toi d'aller lire d'autres journaux ou d'autres revues de presse sur Twitch, mon ami. La pluralité, c'est ce qui m'intéresse. Les différents regards. Dans la nuit du 8 au 9 juin, un nouveau crime contre la paix a été commis. Sous nos yeux, dans les eaux internationales, l'armée israélienne a donc arraisonné le voilier Madeleine, affrété par la coalition de la flottille de la liberté. Ce mouvement qui réunit de nombreuses ONG non violentes tente depuis 15 ans de briser le blocus illégal de Gaza pour apporter aide humanitaire et espoir à un peuple martyrisé. Que ce blocus soit illégal, c'est pas un débat, c'est une info. La flottille de la liberté, avec son modeste voilier chargé de jus de fruits, de riz, de conserves et de fournitures pour enfants, bon, je vous l'ai dit, le chargement était assez léger, n'est pas une provocation, comme le prétendent les autorités israéliennes. C'est un cri d'humanité, un défi pacifique à un blocus et à un génocide qui tue à petit feu. Nous rappelons qu'en 2010, l'attaque du Mavi Marmara par des commandos israéliens avait fait 9 morts, révélant déjà la brutalité d'un État prêt à tout pour maintenir son emprise coloniale. 15 ans plus tard, l'histoire bégaye, même si cette fois, aucun militant n'a été blessé ni tué, fort heureusement. À bord 12 militants, bon, je ne vais pas revenir sur les infos, vous les avez. Leur seul crime, vouloir briser un siège inhumain qui, depuis bientôt 2 décennies, étouffe Gaza et plonge ses habitants dans une détresse indescriptible. Ce n'est pas seulement une attaque contre un bateau, c'est une agression contre l'humanité entière, contre le droit international, contre l'idée même de solidarité. Gaza n'est plus une prison à ciel ouvert, Gaza est un cimetière. Un charnier que plus personne, même les soutiens indéfectibles au gouvernement israélien d'extrême droite, ne peut nier. Ce scandale ne doit pas rester sans réponse. L'interception du Madeleine dans les eaux internationales est une violation flagrante du droit maritime, un acte de piraterie d'État perpétré par un gouvernement israélien qui, sous la houlette de Benjamin Netanyahou, assume sans honte sa logique jusqu'au boutiste. Arrestation illégale, car elle bafoue la liberté de navigation et la liberté de venir en aide à un peuple qui subit un massacre, un nettoyage ethnique, un génocide. Pourtant, face à ce forfait, le président Macron est silencieux. Le silence des dirigeants européens est assourdissant. Leur inaction tient de la complicité tacite avec un régime qui, jour après jour, multiplie les crimes contre le peuple palestinien et bafoue le droit international. Pourquoi Netanyahou arrêterait-il ? C'est le silence qui accompagne chacune de ces transgressions de la légalité internationale. Pourquoi se priverait-il d'un kidnapping de plusieurs de nos ressortissants dans les eaux internationales ? Gaza est détruite. Gaza est asphyxiée. Gaza se meurt, mais plus personne ne peut, ne doit garder le silence. Depuis octobre 23, l'ONU recense dans l'enclave palestinienne plus de 53 000 morts, dont 14 500 enfants, victimes des bombardements indiscriminés. Ce siège, qualifié d'illégal par de nombreux juristes, est une punition collective qui prive 2 millions de personnes d'accès à l'eau, à la nourriture, aux médicaments, à la dignité. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, alerte, le système de santé s'est effondré. 100% de la population vit sous la menace de la famine. Ce n'est pas une crise humanitaire naturelle, mais une catastrophe orchestrée par un État qui, sous prétexte de sécurité, nie le droit à l'existence d'un peuple et veut simplement le rayer de la carte pour expulser les Gazaouis vers les pays arabes voisins. Dans un monde de domination, de violence, de surarmement, de logique belliciste, la flottille de la liberté incarne une autre voie, celle de la solidarité, de la fraternité, de la non-violence, de la justice, de la paix. Les 12 militants arrêtés doivent être protégés et libérés au plus vite, mais surtout l'aide humanitaire de plus de 9000 camions qui attendent aux frontières de Gaza doit pouvoir rentrer. Un couloir humanitaire ouvert et sécurisé doit être instauré et un cessez-le-feu durable doit être conclu. Les otages doivent retrouver leurs familles, les prisonniers politiques palestiniens également. Le 17 juin, le silence devra se transformer en un acte fort. Que je vous disais, que la France reconnaisse enfin l'État palestinien. Il se dit que le président Macron, dans les prochains jours, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, reconnaisse, pardon, au nom de la France, l'État palestinien. Ce qui, à mon humble avis, mais ce n'est que mon avis, est un passage minimum obligé de la part de tous les pays de la communauté internationale pour espérer qu'un jour cette région vive en paix. Voilà. Alors après, quel État palestinien ? Avec quelle administration ? Avec quel pouvoir ? Avec quelles frontières ? Évidemment, tout se complique. Mais à répondre à chaque question essentielle comme celle-ci. Oui, mais c'est compliqué. On ne fait plus jamais rien. Hein ? On ne fait plus jamais rien. Or, tous les gens qui se pensent sérieusement sur l'histoire de ce conflit, hein, qui remonte à la création de l'État d'Israël, mais bien plus avant, si on s'intéresse un peu au sujet, le savent. L'espoir d'une paix dans la région ne peut passer que par l'existence d'un État palestinien qui coexiste pacifiquement, coexistera au futur pacifiquement avec son voisin, l'État d'Israël. Deux États reconnus par la communauté internationale qui donnent aussi les moyens pour que la paix demeure entre ces deux États, ces deux pays. Voilà. Et alors, oui, la reconnaissance d'un État palestinien aujourd'hui, elle est compliquée, parce que bon, ça veut dire quoi ? Avec le Hamas au pouvoir au Gaza, avec le Fatah discrédité également en Cisjordanie, avec quelle structure, quels dirigeants, quelles élections, quel régime politique, quelles frontières, quelles relations avec, avec Israël notamment ? Alors, c'est compliqué, mais c'est pourtant la seule solution. C'est pourtant la seule solution. Donc, dire comme on se le dit depuis toujours, « Ah oui, mais c'est compliqué, vraiment, très bien. » Alors, dans ce cas-là, on ne fait rien. Et le « ne faire rien » est, à l'évidence, bien pire que d'avancer dans cette solution compliquée. Merci, Joss Picon, pour le 11e mois. Merci, Legend of Tomorrow, pour le soutien. Voilà. Ça n'est que mon avis, mon humble avis, après... littéralement 30 ans de réflexion sur le sujet. Je ne suis pas historien, je ne suis pas diplomate, je ne suis pas un expert de ce conflit. Je suis juste un journaliste qui s'est intéressé un peu au sujet et qui, au fil de ses lectures, s'est forgé cette conviction. Vous pouvez partager cette conviction, ne pas la partager, bien sûr. Oui, je suis allé sur place aussi. Oui. Ce qu'on devrait tous faire. Je vous lis un petit peu, et puis... Non, on enchaîne, parce que, attendez. Parce que, justement, l'humanité va un peu plus loin là-dessus. Et attends, c'est où ? Et donne la parole à deux personnes qui essayent d'imaginer, mais quel État palestinien ? Bah, oui, on essaie d'avancer un petit peu. C'est page 21. C'est où la page 21 ? C'est là, regardez. Ah ! Parce que certains me disent, ah, mais c'est idéaliste, t'es idéaliste, Samuel. Mais sûrement. Mais pourtant, c'est la seule solution. Reconnaissance de la Palestine dans quelles conditions ? La conférence internationale co-présidée par la France et l'Arabie Saoudite pour relancer une solution pacifique dite à deux États aura lieu du 17 au 20 juin au siège des Nations Unies à New York. Vous avez la parole qui est donnée à Anne Thuayon, qui est présidente de l'association France-Palestine Solidarité, et Patrick Le Yarrick, qui je crois est l'ancien directeur de l'Humanité d'ailleurs, qui est député européen, enfin qui a été député européen, membre de la commission chargée des relations avec le Conseil législatif palestinien, et qui je crois est l'ancien directeur de l'UMA. Qui est un super journaliste. Alors, quelles conditions ? Quel État palestinien ? Je vous lis rapidement le débat. Alors que le Parlement a largement voté pour la reconnaissance par la France de l'État de Palestine en 2014, donc le président Macron pourrait reconnaître dans les prochains jours l'État palestinien, mais le Parlement français, lui, a appelé à la reconnaissance de l'État palestinien il y a longtemps déjà, en 2014, première chose. Jusqu'alors, les présidents de la République successifs s'y sont toujours refusés. François Hollande avait dit « le moment venu ». Il a fallu des mois de génocide à Gaza et d'accélération du nettoyage ethnique en Cisjordanie pour qu'Emmanuel Macron finisse par annoncer une éventuelle reconnaissance de l'État de Palestine par la France. On verra dans les prochains jours. Mais quel État ? Attendez, alors le problème c'est que si le problème c'est que la dame là, elle fait référence à ce qu'a dit Macron, mais sans le citer. Alors moi, je suis obligé d'aller chercher Macron, les conditions que le président Macron a mis à cette reconnaissance. qu'en fait, elle les évoque, mais elle les rappelle pas. Je suis obligé de vous les rappeler, sinon on va rien comprendre. Condition, reconnaissance, État palestinien. On va trouver ça en deux secondes sur Internet. Voilà. Peut-être libération là. Voilà. Donc, parce que Macron a posé des conditions en fait à cette reconnaissance. D'ailleurs, c'est un peu compliqué. Oh, mais je suis abonné, bordel! Attends, faut que je tape mes codes d'abonnement. S'abonner, vous êtes déjà abonné, ok. Bon, c'est bon. Donc les conditions, vous allez voir. Donc évidemment, déjà Netanyahou est très en colère hein, contre cette éventuelle reconnaissance. Il parle d'une grave erreur. Netanyahou et ses ministres ont même brandi la menace d'annexion de la Cisjordanie en réponse à une éventuelle reconnaissance. Enfin, ça va très très loin. Netanyahou, il a quand même dit, si la France reconnaît l'État palestinien, on annexe la Cisjordanie, quoi. Enfin, pardon, hein. Mais dans le genre jusqu'au boutiste, on va très très loin, quoi. Attends, c'est où les conditions? Ah putain, le titre parle de conditions, mais elles sont pas énumérées là, elles sont où? Ouais, c'est pas si bien foutu, c'est pas clair. Je vais vous trouver un autre article. Je vais vous trouver mieux que ça. Parce que c'est très important de comprendre ces conditions en fait. Voilà, j'ai un site du Monde là qui devrait me donner aussi les infos, je pense. Oh, il casse les couilles en vrai. De toute façon, chercher une info de qualité, ça prend du temps. Si vous trouvez que, si pour vous, s'informer, c'est cliquer sur deux, trois trucs, vite fait, toujours la même chose, les mêmes jours, il y a un problème. En fait, l'humanité pose des conditions. Peut-être là. Alors, c'est où les conditions? C'est là, on l'a, là. Je préfère prendre le temps. C'est vraiment important, c'est... Il y a quelques jours, je vous l'avais lu en fait, mais je voudrais retrouver un article qui nous dise clairement quelles sont les conditions posées parce qu'elles sont pas anodines. Elles sont pas anodines ces conditions. Je suis têtu, hein. Mais en fait, sinon, on va pas comprendre ce que dit cette dame en fait. Ouais, faut que je me connecte au monde maintenant. Alors, demande à ChatGPT et tu auras plus vite. Non. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut expliquer à Jason pourquoi on peut pas aller sur ChatGPT, qui est un super outil pour poser cette question? Même si la réponse est de qualité. Est-ce que quelqu'un peut expliquer à Jason? Non, pas les droits d'auteur, non, non. Parce qu'il faut supporter les journalistes non plus. Pas de sources, merci. Parce que ChatGPT ne va pas vous donner ses sources. Voilà. Et en fait, nous, on a besoin de savoir qui nous parle. Voilà. Quel est le journal, quel est le journaliste. Voilà. Pour savoir d'où on nous parle. Voilà. Merci Canabi. Donc, voilà. ChatGPT donne les sources et tu te demandes. Oui, mais moi j'ai besoin d'avoir confiance. Moi je ne connais pas l'algorithme de ChatGPT. Alors que si je vois clairement la signature d'un journaliste au bas d'un article, tu vois. Merci Gérard. Merci Canabi pour les 5 abonnements à la commune. Vous êtes fou. Merci Moulbit pour le 19e mois. Maintenant, il donne obligatoirement ses sources. Ah, trop bien. Il faut juste demander le lien. Bon, c'est bien ça. On va se mettre à ChatGPT. Et Kanami qui prend l'abonnement pour lui. Merci beaucoup. Ouais, je l'ai. Le Monde. Donc, le président français a dit le 9 avril. On doit aller vers une reconnaissance de l'État palestinien et ce, dans les prochains mois. On ira. Voilà. Ça, c'est une promesse. Voilà. Le Royaume-Uni, le Canada, le Japon pourraient éventuellement également le faire, quoi. Paris a posé des conditions à la reconnaissance de l'État palestinien, comme la démilitarisation du Hamas. La démilitarisation du Hamas. C'est une condition. La réforme de l'autorité palestinienne. Hein, l'autorité palestinienne qui préside aux destinées de la Cisjordanie, elle est accusée de plein de choses. Notamment de, comment on dit? Bon, d'inefficacité déjà, mais aussi de corruption. Imaginez la taille du chantier, quoi. La France veut aussi que les pays qui ne reconnaissent pas Israël entrouvrent la porte à une normalisation de leurs relations diplomatiques avec l'État hébreu. Donc, reconnaissance de l'État palestinien, mais avec des conditions qui sont extrêmement exigeantes, quoi. Extrêmement exigeantes. Donc, maintenant, je peux reprendre la lecture de cet article, puisque cette dame en parle. Voilà. Il aura fallu des mois de génocide à Gaza et d'accélération du nettoyage ethnique pour qu'Emmanuel Macron finisse par annoncer une éventuelle reconnaissance de l'État de Palestine par la France, tout en rivalisant avec Jean-Noël Barrot sur les conditions à mettre à cette reconnaissance. Ce qu'on peut avoir aussi dans quelques jours, c'est un président Macron qui dit finalement je ne peux pas, au nom de la France, reconnaître l'État palestinien. Oh là là, Quakers, mais non, ça c'est un truc de langue française. Question Samuel, pourquoi quand tu parles du gouvernement et tu dis Paris à poser des conditions et pas à la France. Nous existons en province, parce que c'est un langage diplomatique. C'est comme quand on dit Washington. C'est parce qu'en fait, le siège du gouvernement est à Paris. Enfin, tu sais ça, Quakers. Et pas à Dijon. Si je te dis Dijon va décider de reconnaître l'État palestinien, tu vas me dire, mais ah bon? C'est Paris en tant que siège du pouvoir. C'est pas Paris et la France. Mais enfin, tout le monde sait ça. Troll ou pas troll? C'est du troll en vrai. C'est juste le siège du pouvoir. Pas troll? Aïe. Donc, Jean-Noël Barrot propose un État démilitarisé, un non-État. Et cette dame, elle n'est pas d'accord. Voilà. Laisser les Palestiniens sans défense face à un État qui ne leur reconnaît aucun droit, si ce n'est celui de quitter leur terre, un État qui a mis en place un régime d'oppression à leur encontre. Donc, le président Macron dit un. Alors, Macron, il dit pas un État démilitarisé, il dit un Hamas démilitarisé. Quel sens, dit encore cette dame? Quel sens aurait la reconnaissance d'un État sous occupation, colonisé et dont un peuple est soumis à un régime d'apartheid? Le défi que doivent relever les États lors de la conférence de l'ONU est précisément l'application des résolutions de l'ONU. Notamment la résolution du 18 septembre 2024 qui exige qu'Israël ait mis fin à l'occupation et à la colonisation du territoire palestinien le 18 septembre prochain. Sans oublier celle du 11 décembre 1948, adjugeant le droit au retour aux réfugiés palestiniens sur leur terre d'origine, c'est-à-dire en Israël pour la plupart d'entre eux. Elle conclut, les États membres doivent se saisir de cette conférence pour qu'enfin le peuple palestinien puisse faire valoir son droit plein et entier à l'autodétermination et non pour lui dicter le cadre dans lequel il serait autorisé à l'exercer. Le droit est dit, il ne se négocie pas, et certainement pas avec celui qui le viole depuis 77 ans. Tout le monde sait que cela devra passer par des sanctions contre Israël. Ces sanctions sont prévues dans la résolution de septembre 2024, les États ont l'obligation de les mettre en œuvre. C'est à cela que la France doit se conformer tout en reconnaissant l'État de Palestine sur lequel le peuple palestinien puisse exercer sa souveraineté pleine et entière. Donc, Anne Tuaillon a dit la reconnaissance de l'État palestinien, ça n'est rien si on n'applique pas toutes les décisions qui ont été prises par la communauté internationale depuis des décennies. Je résume un petit peu. Patrick Le Yarrick, hein, qui est un ancien élu communiste, qui est aussi l'ancien directeur de l'UMA, prend la plume également et nous dit « La reconnaissance d'un État doit s'accompagner de la garantie de sa viabilité. Comment lui donner tort ? Il est indispensable de faire cesser le génocide en cours. » Alors déjà, Patrick Le Yarrick nous dit quelque chose d'intéressant, les vociférations. De Netanyahou contre tout chef européen se prononçant pour une reconnaissance d'un État palestinien en dit long sur la cruciale importance de cette conférence internationale des Nations Unies qui se tiendra du 17 au 20 juin à New York. Un acte officiel de reconnaissance de l'État de Palestine n'est plus que jamais un acte de haute portée politique. Mais soyons lucides, dit Patrick Le Yarrick, une déclaration de reconnaissance ne peut voyager seule. L'occupation, la colonisation, annexion, la guerre génocidaire détruisent toute possibilité de construire l'État de Palestine. Ça va de soi. Si vous reconnaissez un État palestinien, juste cette phrase, mais dans les conditions actuelles de vie des Palestiniens, avec le blocus, avec l'aide humanitaire empêchée, avec l'interdiction de circuler, avec les frappes de l'armée israélienne, voilà l'État palestinien, quoi. Bon, c'est extrêmement simple à comprendre. Un double acte simultané est donc indispensable, reconnaître l'État palestinien et faire cesser immédiatement le génocide en cours à Gaza. Restituer toutes les colonies implantées en Cisjordanie, ainsi que Jérusalem Est aux Palestiniens, leur assurer l'accès à l'eau, libérer les 10 000 prisonniers politiques palestiniens. Les moyens d'action, Patrick Le Yarrick souligne, suspendre tout de suite les accords d'association et de coopération militaire, suspendre les livraisons d'armes à Israël. Autrement dit, la France et les institutions européennes doivent prendre appui sur l'avis de la Cour internationale de justice de juillet 2024 qui déclare illégale la présence israélienne en Cisjordanie et à Gaza. Exige le retrait des colons et des forces militaires, ainsi que des réparations en faveur du peuple palestinien. Le droit est aujourd'hui l'arme puissante pour déployer sous l'égide de l'ONU une force internationale de protection du peuple palestinien. Celle-ci lui permettrait de progresser vers son droit à l'autodétermination tout en faisant libérer les otages israéliens. C'est à envoyer des soldats sur place, quoi, une force de l'ONU. La reconnaissance d'un État doit s'accompagner de la garantie de sa viabilité. La base de la discussion ne peut donc être que dans le respect des résolutions de l'ONU. Un État dans les frontières de 1967, merci clic droit. Une solution pour les réfugiés. La souveraineté partagée sur Jérusalem. Des garanties de sécurité de part et d'autre. Bon, la plupart de ces demandes, l'État israélien, le gouvernement israélien actuel est incapable de les accepter, bien sûr. Donc là, ça ne peut venir que de pression de la communauté internationale. L'enjeu est capital pour tout démocrate. La Palestine et Gaza ne peuvent être une répétition d'un navire chaotique pour le reste du monde. Voilà. Pardon pour le temps que je passe sur ce sujet, mais on ne peut, même si on en parle tous les jours, on ne peut pas aller vite sur ces sujets. ils sont trop complexes. Et encore, là, on en parle quelques minutes, c'est ridicule. On devrait en parler pendant des jours. Comment explique-t-il le manque de sanctions des États à l'égard d'Israël? Une, deux, trois. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit fois. Comme tu as posé cette question huit fois, je pense que je vais devoir t'y répondre, sinon tu vas passer ton stream, y compris quand on va parler d'autres sujets, à poser cette question. Donc je t'arrête à 8 pour que tu n'ailles pas à 32. Mais la réponse est dans la question. Parce que c'est loin, parce que c'est pas nos affaires, parce qu'il y a des intérêts économiques en jeu. Enfin, je peux te faire une liste longue comme le bras. Parce que historiquement, Washington, vous savez, Washington représente siège du pouvoir politique aux États-Unis. Quelqu'un va me dire, ah, mais pourquoi tu dis Washington? Les États-Unis, c'est pas Washington. Dijon, tout ça. Soutien historique de Washington à Israël. Voilà. Et puis que rapporterait de soutenir l'État palestinien économiquement, quoi. Il y a un peu un on s'en fout, quoi. Pourquoi vous avez, il y a quand même Patrick Le Yarrick à l'instant qui nous dit qu'une des conditions sine qua non, c'est de déployer une force internationale sur place, des soldats, quoi. T'as les chefs d'État, ils disent bon, c'est chaud, quoi. Est-ce que les Palestiniens arriveraient à avoir un État qui marche, Dragon Hero? Les Palestiniens ont droit à un État. Point. Après, c'est de leur responsabilité de faire qu'il marche ou pas. Mais fin du débat. Les Palestiniens ont droit à un État. Tu trouves que l'État israélien, il marche, toi? Merci Geoffrey pour le soutien. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que dans les prochains jours, il va se passer un truc. Voilà. Alors, ou une immense déception, ou un mince espoir pour qu'un jour, cette condition sine qua non au retour de la paix dans la région, c'est-à-dire la coexistence pacifique de deux États, puisse se mettre en place un jour. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. Le chemin, il sera peut-être très long, il sera peut-être très lent, mais il passe à minima par un engagement de la communauté internationale fort et à long terme pour accompagner cette solution. Alors, ça peut être long, ça peut être douloureux, ça peut être compliqué, il y aura des rechutes, on sera déçu, tout ça c'est possible, mais c'est la seule solution et ce sera beaucoup mieux que ce que vit aujourd'hui le peuple palestinien. Allez, j'enchaîne parce que, non pas parce que on devrait pas en parler encore plus longuement, mais on en parle tous les jours. Et si je n'enchaîne pas, on n'en parlera que de ça. Et vous allez finir par me le reprocher. Et c'est normal, il se passe d'autres choses aussi. Je vous abandonne dans 1 heure. C'est fou, il faut que j'accélère un petit peu. Alors, on a parlé du Proche-Orient, c'est le seul sujet qu'on a abordé ce matin. Je voulais aussi vous parler de politique. Est-ce qu'on commence par. Ah oui! Est-ce qu'on reporterait pas un petit coup à nouveau l'âge de départ à la retraite? Hein? Tiens! Une petite bonne nouvelle là. Voilà, c'est page 8 dans le monde. Un petit coup! Je voulais vous mettre de bonne humeur ce matin. Le Conseil d'orientation des retraites, c'est le fameux corps, suggère un recul de l'âge de départ. Ça faisait longtemps? Bah oui! Dans son rapport annuel qui sera rendu public le 12 juin. C'est jeudi, jour du live au Louvre, à 20h. L'instance examine les leviers mobilisables pour combler le déficit annoncé. Quelle retraite ?
Ben voilà.
Le Conseil d'orientation des retraites vient d'ajouter une petite pointe de piment dans le débat déjà très épicé sur nos systèmes de pension. Allez ! Vendredi 6 juin, l'instance présidée par l'économiste Gilbert Sette a diffusé à l'ensemble de ses membres une version quasi définitive de son rapport annuel. Le contenu du document, qui doit encore donner lieu à une discussion, donc il n'est pas le document officiel, avant d'être approuvé et rendu public, penche implicitement en faveur d'une option pour assurer l'équilibre financier des régimes. Et cette option, c'est le recul de l'âge légal de départ à la retraite. Un autre recul, au-delà de 64 ans. Hein. Alors qu'actuellement, vous avez des partis et des syndicats qui se battent pour revenir un petit peu en arrière. Quoi. Voilà. Je vais mourir au travail, me dit Pink Kalash. Critiquée par plusieurs syndicats, cette contribution intervient alors que les partenaires sociaux se trouvent dans l'ultime ligne droite d'une difficile négociation sur le sujet. Alors, d'après le corps, notre système actuel par répartition devrait être déficitaire en 2030 à hauteur de 6 milliards, un peu plus, 6 milliards 6. Voilà. Ce qui est beaucoup, objectivement. Ce solde négatif pourrait ensuite se dégrader encore davantage. Pour combler le trou, le rapport examine les leviers mobilisables. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Voilà. Revaloriser les pensions à un rythme moins rapide que l'inflation. Okay. Accroître les contributions vieillesse payées par les salariés. Hein. Bon, les cotisations plus importantes. Relever aussi les cotisations des employeurs. Ou repousser l'âge d'ouverture des droits à la retraite. Voilà. Là, on est passé en 2023 de 62 à 64 ans. Ces solutions n'ont pas le même effet du point de vue macroéconomique, explique le corps. Et le corps qui dit que la quatrième, donc le report à nouveau de l'âge légal, correspond à un enrichissement du pays. Et il s'explique. Elle permet d'augmenter le nombre de personnes en activité et donc à terme le PIB, et en conséquence toutes les recettes fiscales et sociales. Voilà. À l'inverse, les autres solutions sont récessives. Soit elles réduisent le revenu net et la demande des ménages, puisqu'elles augmentent les cotisations, ce qui affaiblit le PIB, soit elles provoquent une hausse du coût du travail, cotisation employeur, ce qui joue en défaveur de l'investissement, de l'emploi et donc des richesses créées. Dans le rapport, ils ont mis un tableau, pour résumer tout ça, avec des plus et des moins, amélioration, détérioration. Et la ligne allongement de l'âge de départ à la retraite, elle n'a que des plus. Pour le corps, hein. Alors, et le corps dit, attention, hein, ces simulations ont une vocation pédagogique. Elles ne constituent en aucune manière des propositions de réforme. Disent-ils en mettant que des plus. Alors, un exemple, hein, concrètement, ça voudrait dire quoi ? Si on voulait maintenir l'ensemble des régimes sur le niveau à peu près actuel, il faudrait porter l'âge légal à 64,3 en 2030, 65,9 en 2045, 66,5 en 2070. Et sinon, la santé, demande Pimnet. Alors, réaction des syndicats, notamment de Force ouvrière. Ça, c'est du Gilbert Sette, hein, c'est le patron du corps, avec sa grille de lecture néolibérale et son obsession du déficit public. Gilbert Sette abîme le corps. Qui m'écrit ? Dit encore la CGT. Il répète cette doxa paresseuse selon laquelle il n'y aurait qu'une seule voie possible, le report de l'âge d'ouverture des droits, alors que d'autres mesures peuvent être prises. Voilà. Donc là, si vous entendez parler du rapport du corps dans quelques jours, vous en aurez entendu parler d'abord ici. Heureusement que j'ai prévu de mourir à 27 ans comme une rockstar, me dirait Towa. Non, reste avec nous, mon chou, reste nous. On a besoin de tes cotisations, en vrai. Sinon, ça va plus du tout. Comment... Attends, si les jeunes aujourd'hui s'arrêtent de travailler, comment je prends ma retraite, moi ? Je vous rappelle que c'est un système à répartition. Ce sont vos cotisations de jeunes travailleurs qui vont me payer ma retraite. Les gars, bossez, quoi. Bossez, les gars. Moi, j'ai envie de me la couler douce. Les cocktails, les plages de sable fin, les bouquins, les chocolats, quoi, Netflix, les tutti quanti, quoi. Va falloir bosser, les gars. Hein. Moi, je veux ma retraite. Hein. Donc, voilà. Et Valo, bien sûr. Ah non, pas Costa Croisière, non, il y a des gens et tout. J'étais assise, bien sûr. Au boulot, les jeunes. Hein. Sam, c'est mon sub ou la retraite, à toi de choisir. C'est toi qui choisis, mon chou. D'ici ta retraite, tu seras GTA 8. Ouais, c'est pas impossible. Ouais. Salut, Géobomatique. Rachida, qu'est-ce qu'elle a encore fait? Oh là 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 là, si je vous lisais tous les papiers sur Rachida Dati. Mais j'attends, je suis cette histoire dans le dossier Gone là. Et quand je trouverai un article un peu. Parce qu'en fait, pour l'instant, c'est des soupçons. C'est pas très étayé. Mais je suis l'affaire, je suis l'affaire. Merci, Saïsen, pour le Prime. Très bon move d'augmenter l'âge de la retraite de Jérémy, qui n'a pas mis son CAPA, mais il y a un très gros CAPA que j'entends. Les travailleurs, travailleuses les plus précaires vont mourir plus vite et la masse de retraités aisés vont permettre de remporter toutes les prochaines élections. Alors moi, ce que je... Là aussi, je ne suis pas économiste, moi. Mais Geoffrey, je t'ai remercié tout à l'heure. Quand on repousse l'âge légal de départ à la retraite de 64 ans, par exemple, ça n'impacte pas les gens qui ont fait des études supérieures, dont l'âge de départ à la retraite est déjà plus lointain. Moi, c'est plutôt vers 67 ans, par exemple. On impacte qui? Sauf erreur de ma part, on impacte ceux qui n'ont pas fait d'études supérieures, qui ont commencé à travailler tôt, du coup, et qui potentiellement peuvent avoir vont devoir travailler plus longtemps que les gens qui ont fait les études supérieures. Dans des métiers parfois qui sont difficiles et mal payés. Voilà. Et qui ont des métiers qui parfois ont été usants, quoi. Donc effectivement, dans l'augmentation de l'âge de l'âge légal de départ à la retraite, il y a un truc qui favorise plutôt les classes moyennes aisées que les classes populaires. Moi, imaginons que mon âge légal, je crois que c'est 67 ans, moi. Bon, s'il repousse à 64, bon, c'est fait. À 65, bah, comme disait Chirac, ça m'en touche, ça m'en, quoi, ça m'en bouge une sans, non, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, c'est ça? 66, je suis pas impacté. Ils mettent à 67, je m'en fous, je pars à 67, moi. Ça change rien pour moi. Voilà. Mais pour les gens qui ont commencé à travailler tôt, notamment parce qu'il n'y a pas d'études supérieures, eh ben, eux, ils vont devoir travailler plus longtemps. Donc, effectivement, il y a un truc quelque part qui ne va pas, quoi. Je pense pas me tromper, hein. Oui, ça augmente pas le nombre d'années de cotisation, c'est juste l'âge minimal. Kraftwan, c'est comme ça que je l'ai compris, moi. Moi, la réforme, par exemple, elle n'a absolument pas changé mon âge de départ à la retraite. La dernière réforme. Parce qu'elle n'a pas augmenté la durée de cotisation, elle a augmenté juste l'âge de départ légal à la retraite, quoi. Il y a un truc qui est un petit peu créateur d'inégalité, là. Oh oui, David, on en a déjà parlé. On en a parlé pendant une heure. Tu l'as en replay. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. Nous verrons ce qui va se passer. Je vous lis en même temps. Quelque chose me dit qu'on va en reparler dans les prochains jours, parce qu'il y a des négociations actuellement entre partenaires sociaux sur cette question des retraites. Quelque chose me dit que dans les prochaines semaines, les prochains mois, on va continuer à en parler. J'accélère pour pouvoir vous donner un maximum d'infos ce matin. Après les retraites, un peu de politique. Avec, alors, les déboires du RN. Moi, je suis un peu surpris de ces articles en ce moment qui nous parlent des soucis du RN. J'ai l'impression que le parti se porte pas si mal, au vu des sondages. Mais pourtant, prenons le Parisien. Pourtant, il y a des travaux dans la cour, j'espère que c'est pas trop bruyant. Le Parisien, par exemple, nous dit ce matin que le RN fête sa victoire, donc un an après les législatives et les très bons résultats pour le parti d'extrême droite. Et vous oubliez ces déboires. Quels déboires? On les connaît. Mais je suis surpris que ce soit si mis en avant, parce que moi j'ai l'impression que le RN est politiquement en pleine forme. Donc là, ils ont fêté cet anniversaire. C'était dans le Loiret, à Mormant-sur-Vernisson. Voilà. Le 9 juin marque l'anniversaire des élections européennes 2024. Le RN y a convié ici ses partenaires du groupe parlementaire des Patriotes pour l'Europe, donc les copains européens qui pensent un peu les mêmes choses qu'eux, pour célébrer la victoire de l'an passé. On rappelle qu'en France, le RN est arrivé en tête avec 31,37% des voix. Voilà. Qu'il a participé à bâtir le troisième groupe du Parlement européen, ça n'est pas rien, autour de partis nationalistes hétéroclites, parfois ouvertement xénophobes ou homophobes, moins policiers que le RN dans l'Hexagone, mais défendant tous une Europe des nations. Tiens, le RN s'est associé à des partis xénophobes ou homophobes. C'est fou, ça. C'est quand même bizarre, parce que quand même, régulièrement, dans le chat, on m'explique que le RN n'est en rien un parti xénophobe et... donc là, je suis très, très étonné par cette information, quoi. J'en tombe de ma chaise, comme dit Exutoire. Je ne peux le croire. Je ne peux le croire, dit Rezali. Qu'entends-je, dit Tsuka. Oui, c'est fou, hein. C'est très étonnant, parce que moi, j'ai des gens régulièrement qui viennent me dire que rien dans l'histoire ou le comportement ou les déclarations des représentants du RN nous emmène vers un parti qui pourrait être considéré comme xénophobe. Là, comme Tonio le dit à l'instant, foutre Dieu, quelle surprise. Alors, donc, bon, bref, il y a eu une petite teuf. Voilà. Voilà. Et le Parisien nous dit « Une fête de la victoire opportune aussi pour faire oublier les déboires du parti à la flamme ces derniers mois. » Alors, quel déboire ? Un conseiller lepéniste reconnaît en privé « C'est vraiment une période bien à chier. » Voilà, on dit les termes, enfin. Voilà. Là, c'est la politique qu'on peut comprendre. C'est-à-dire, période bien hachée, les législatives partielles où le RN ne mobilise pas, a perdu deux députés, c'est pas non plus... Une condamnation de sa lideuse, bon, lideuse de Marine Le Pen, ça, c'est un peu plus embêtant, à une peine d'inéligibilité qui obscurcit son avenir politique. À ce jour, Marine Le Pen ne peut pas se présenter à la prochaine présidentielle. Ça, c'est un caillou dans la chaussure. Ok. Ouais. Une condamnation qui trouble aussi la relation vendue comme idyllique avec son binôme Jordan Bardella. Bardella qui est devenu un encombrant plan B. Encombrant, pas pour lui, hein. Lui est très, très content, hein. Non, pas sa hideuse, sa leadeuse comme leader. C'est pas très joli, leadeuse. C'est pas beau, elle est leadeuse. C'est pas très joli. Voilà. Un an après les européennes. Et la dissolution, le RN semble s'interroger sur le bien fondé de persister à réclamer de nouvelles élections. Parce que s'il y a de nouvelles élections, il n'y aurait pas de candidature de Marine Le Pen. Voilà. Donc en fait, ils ne sont pas très chauds. Alors, quel candidat pour 2027 ? Les gens voteront RN, quel que soit le candidat, croit savoir un militant venu de Lyon, qui, comme un certain nombre ici, voit Jordan et Marine comme des candidats interchangeables. Je ne suis pas sûr, ça. Dans une élection présidentielle qui est vraiment une rencontre entre un homme et une femme et un peuple avec des électeurs, alors je crois que la personnalité joue beaucoup. Voilà. Je ne suis pas sûr que les candidats soient interchangeables. Voilà. Après, peut-être que Bardella peut aussi faire un très bon score, quoi. De là à dire que le RN traverse une phase de déboire, je trouve que c'est un peu exagéré. J'ai l'impression que la popularité du parti, si on en croit les sondages en tout cas, ne semble pas très affecté, quoi. Bah, on verra. On s'approche doucement de cette échéance, hein. On va se régaler. Et puis, il y a un dossier en une de Libé sur ces membres du RN, notamment parfois candidats à des élections. Problématique. Raciste, antisémite, complotiste et toujours ORN. Lors des législatives de 2024, on s'en souvient, avait été identifié, notamment par Libération, 120 candidats tenant des propos en contradiction avec la volonté affichée par Marine Le Pen de dédiaboliser son parti. Bon, des propos racistes, xénophobes, ce qui est quand même incroyable. Ce qui est étonnant. Comment expliquer que des candidats du RN puissent tenir des propos racistes et xénophobes ? Régulièrement, on a quand même des gens ici qui popent dans le chat en disant « Mais tu n'as rien compris, Samuel, le RN n'a rien à partie xénophobe et raciste. Voilà. » Un an plus tard, la plupart sont restés membres. Voilà. D'autres ont même fait leur apparition. Édito d'Alexandra Schwarzbrod, toxique. Souvenez-vous, le 5 juillet, Libération consacrait sa une à tous ces complotistes antisémites et racistes qui se présentaient aux législatives sous l'étiquette du RN. Mine de rien, cela en faisait un paquet, c'est sans doute cette alerte ainsi que celle lancée par d'autres médias qui a contribué à empêcher l'extrême droite d'entrer. Ah, dommage, j'allais épingler le message d'Agrunx, Moulbit. Oh, je voulais l'épingler. Dommage. Zut. Rah, ouais, on voit le niveau de journaliste s'attaque le RN sans raison. Alors, j'assume totalement. Je n'ai aucune sympathie pour les idées du RN. Je n'en ai jamais eu, ni pour le FN, ni pour ce parti qui est le même. Je n'en ai jamais eu, je n'en aurai jamais. Voilà. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ça. Le sans raison est de trop, bien sûr. Qui se penche sur l'actualité et l'histoire de son parti ne peut pas l'écrire, mais il faut faire avec. Voilà. C'est-à-dire que voilà, j'essaie de vous donner des infos, mais j'ai aussi des valeurs et des opinions, et ça, vous faites avec. Donc moi, personnellement, le RN, c'est pas ma cam, c'est pas ma tasse de thé, ça ne l'a jamais été, ça ne le sera jamais. Donc si vraiment c'est insupportable pour vous, ben, je suis désolé, faut faire avec. Donc vous m'accusez de tout ce que vous voulez, mais ça ne me fera pas bouger d'un iota sur ce sujet. Voilà. Après, ce sont mes opinions. Et mes opinions, elles peuvent être erronées. Je peux avoir tort. Mes valeurs peuvent être de mauvaises valeurs, mes prises de position erronées. Mais par contre, vous ferez avec. Voilà, parce que c'est comme ça. Point. Sinon, vous allez voir une autre revue de presse ou vous créez votre chaîne. Je continue donc avec ce parti qui n'a pas ma sympathie. Donc, à l'époque, Jordan Bardella avait juré que ces brebis galeuses, comme il les avait lui-même qualifiées, donc c'est pas moi d'ailleurs qui dit que ces candidats étaient problématiques, c'est Jordan Bardella, allaient être purement éjectés du parti. C'est pas moi qui dis... Il y a Henri qui est là ? Salut Henri. Salut Henri, tu vas bien ? L'ami Henri Train était avec nous. C'est pas moi qui dis que ces candidats étaient problématiques, c'est Bardella qui le dit. Il a parlé de brebis galeuses. Près d'un an plus tard, nous avons voulu vérifier ce qu'il en était, et bien le résultat de notre enquête n'est pas beau à voir. Le RN a beau tenter de donner des airs de respectabilité, quand on gratte un peu, la réalité est bien moins reluisante. Selon nos enquêteurs, près de 90 de ces brebis galeuses sont toujours membres du RN, dont une trentaine de parlementaires, une quinzaine d'élus au niveau municipal, départemental ou régional. L'une des réponses que j'oppose à ceux qui tentent de m'expliquer que le RN n'est pas en aucun cas un parti xénophobe et raciste, je dis allez voir les déclarations, les prises de position des élus du parti. Pas d'hier, pas d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans, d'aujourd'hui. Et je dis un parti qui tolère en ses rangs des militants, des électeurs, des militants et des élus qui tiennent des propos racistes et xénophobes est donc un parti raciste et xénophobe. Vous faites avec ça. On peut donc tenir des propos ouvertement racistes ou suprémacistes et continuer à siéger à l'Assemblée. On en a malheureusement vu les répercussions possibles il y a peu quand Christophe B., dans une commune du Var, a tué son voisin tunisien de sang-froid dans un déchaînement de haine raciste après avoir posté des vidéos dont l'une, au moins, appelait à voter par le RN, pour le RN. Lors de la marche blanche en l'honneur de Hichem Mirawi, qui était ce coiffeur tunisien qui a été assassiné par son voisin, dimanche, beaucoup pointaient du doigt le climat politique toxique qui peut faciliter le passage à l'acte. L'extrême droite s'est avérée alimente ou influence nombre de groupuscules et individus violents. Elle ne s'en cache pas. Lundi, près de Montargis, dans le Loiret, Marine Le Pen était radieuse en écoutant les propos flatteurs que lui adressaient ses amis Victor Orban, premier ministre hongrois, Matteo Salvini, vice-président du Conseil du ministre italien, deux hommes qui ne cessent de faire peser sur les immigrés et surtout sur les musulmans la responsabilité de tous les maux de l'Europe. Voilà. Donc après, on n'aura pas le temps de lire tout le dossier, mais je suppose que Libé nous donne quelques petits exemples de ces élus ou de cadres du RN. On a par exemple, je sais pas, Christian Pérez, hein, qui avait comparé les joueurs de la pseudo-équipe de France de football à des clandestins. Voilà. Toujours patron du RN à Concarneau. Voilà. Bon, il y a plein d'exemples comme ça. Stéphanie Alarcon, ex-candidate dans la 3e circonscription de la Haute-Garonne, qui continue à se présenter comme responsable RN dans la circonscription, ce qui n'est pas démenti par le parti. Voilà. Elle disait militer pour une France épurée et sécurisée. Ouais. Ah, non, Alarcon. Alarcon. Pardon. Pas Alarcon. Jean-Yves Le Boulanger, qui pendant la campagne s'était défendu à la radio d'être facho. Je ne suis pas un facho, avait-il dit. Je n'ai pas écrasé un curé de couleur qui avait béni sa moto. Donc, comme il n'avait pas écrasé ce monsieur, c'était la preuve qu'il n'était pas facho. Voilà. Mais, bonne nouvelle, il pourrait être convoqué devant la commission des conflits du RN au mois de juillet. Bah, il devait être convoqué, mais il n'a pas été convoqué. Enfin, on attend, quoi. Voilà. Mais il a présenté ses excuses. Il a présenté ses sincères excuses. Voilà. Maïté Pouget, première circonscription de la Corrèze. Donc, elle avait déclaré que la France commençait à être envahie par l'immigration. Voilà. Mais pas à cette heure-là, parce que c'était sur un marché. Parce qu'à cette heure-là, les immigrés dorment. Voilà. Voilà. J'ai dit ce que je pensais, j'ai pas eu de retour du siège du parti. Isabelle Dupré, deuxième circonscription du Puy-de-Dôme, multiple dérapage raciste sur Facebook. C'est où la suite de l'article, page 4? Voilà. Voilà. Elle avait expliqué qu'elle arrêterait l'humour raciste si elle était élue. Voilà. La direction du RN a examiné son cas, n'a pas pris de sanction. Monique Grisetti, qui est députée, première circonscription des Bouches-du-Rhône, c'est une élue. Hein. Voilà, alors sur à propos de Gims, qu'il retourne de là où il vient, qu'il amène toute sa tribu avec lui, qu'il aille traire la chèvre, ça nous fera des vacances. Donc là, c'est une élue. Bon, je prends à la volée comme ça. Hein. Alors, il y a eu quand même quelques exclusions formelles. Hein. Alors, effectivement, Ludivine Daoudi, investie aux dernières législatives dans la première circonscription du Calvados, elle a été exclue parce qu'elle a posé avec une casquette militaire nazie. Voilà, elle a été exclue, elle. Marie-Christine Parolin, conseillère régionale d'Occitanie. Qu'est-ce qu'elle avait fait, là? Un adversaire l'accusait de vouloir remplacer la devise nationale liberté, égalité, fraternité par celle de Vichy, travail, famille, patrie. Elle a répondu tout à fait. Bon, là, le RN a dit non, 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 arrête. Elle a dit Christine, tu peux pas dire ça, bordel. Daniel Grenon a été exclu mi-octobre. Alors, lui, il avait affirmé que les Maghrébins étaient arrivés au pouvoir en 2016. Je sais pas si c'est passé en 2016. Alors que ces gens-là n'ont pas la place dans les hauts lieux. Il a été exclu, lui. Mais bon, Libération souligne que la plupart n'ont pas été exclus, quoi. Mais c'est vrai que Bardella lui-même avait dit... C'est quoi les mots de Bardella ? Il avait dit, ce sont des brebis galeuses, quoi. On veut pas de ces gens-là, quoi. Mais manifestement, le ménage est compliqué à faire. Il y avait une carte de la honte, me rappelle Sugar, sourcée pendant la législative, qui retraçait tous les problèmes par circonscription candidat, dont ceux cités dans l'article, exactement. Là, je vous ai fait un petit passage en revue rapide, quoi. Ouais. Donc après, le RN est un parti qui sera sûrement beaucoup plus prêt aux prochaines législatives, avec des candidats beaucoup plus présentables qu'aux dernières législatives. Ouais. « Et c'est facile de parler que du RN. Oh, mais on parle de tous les partis ici. Hein. De tous les partis. Et on n'en dit pas beaucoup plus de bien. C'est juste que de parler des problèmes des autres partis ne va pas changer la nature même du RN et de son programme et de sa philosophie de pensée. Et on parle de LFI aussi, vous inquiétez pas. Hein. Mais il faut venir tous les jours pour ça. Il faut faire des efforts. Il n'y a pas d'article sur LFI ce matin, mais je vous en lis aussi. Hein. LFI a aussi des sujets. Hein. Et quand je les lis, je me fais engueuler par les électeurs LFI. Qui me disent, dis donc, tu serais pas un soutien du RN, toi? Bon, bah, je suis habitué maintenant. C'est pas un problème, je m'en fous en vrai. Mais c'est pas en parlant des problèmes des autres partis que ça enlève ces énormes problèmes du RN. Je suis habitué. Hein. On en reparlera d'ailleurs. Faut pas gueuler comme ça, Sam, je suis au bureau. Désolé. Mais LFI, tu te fous de leur gueule aussi, t'as fait du ad hominem sur leur prénom? Bah en fait, Lius, c'est plus compliqué à LFI parce que j'ai moins d'élus à casquette nazie, quoi. Voilà, j'ai moins de propos problématiques, quoi. Donc c'est plus compliqué à faire, quoi. Il y aurait de l'élu LFI de casquette nazie, je t'en parlerai aussi. Hein. Mais j'en ai moins, quoi. Il y a des sujets avec LFI, hein. J'en parle aussi, mais il n'y a pas ceux-là, quoi. Pas ceux-là. D'autres. Allez, j'aime cette ambiance dans le chat. J'aime bien cette petite ambiance de camaraderie, là. J'aime bien. Force Samuel de prendre le temps de répondre à ces questions. Mais je suis habitué, Antoine. Je suis habitué, maintenant. Puis après, je vais sur Valo pour me détendre. Voilà, ce qui m'énerve encore plus. De quoi je voulais vous parler? J'ai des bonnes nouvelles ce matin aussi dans l'actu. Ah, on va parler de Macron. Oh, vous savez quoi? On va se demander, est-ce que Macron pourrait pas dissoudre encore l'Assemblée? Hein? Comme il a fait une grosse boulette il y a un an, est-ce qu'il pourrait pas recommencer? Là, j'espère qu'il n'y a pas trop de militants, des pro-Macron dans le chat. Je vais encore me faire déchirer. Alors c'est où ça? Attends, il est où Macron? 8, numéro 7. Ça, c'est mes notes. Illisible. Je n'arrive pas à me relire. C'est numéro 7. Macron, nouvelle dissolution, page 9. Dans la croix. Let's go. Bon, les militants pro-Macron, on m'en voulait pas trop. Hein. Je vais pas dire beaucoup de bien du président. Hein. Emmanuel Macron pourrait-il à nouveau dissoudre l'Assemblée? Puisque le cooldown de la dissolution est terminé, hein, d'ici cet été-là, le président va à nouveau pouvoir, s'il le souhaite, dissoudre à nouveau. Voilà. Le président de la République pourra à nouveau dissoudre l'Assemblée à partir du 8 juillet. Un an après le second tour des législatives, provoqué par sa décision surprise de dissolution, vous le savez, après le scrutin européen qui avait été une catastrophe pour les rangs macronistes. Un choix très risqué. Alors à l'époque, l'article de la Croix rappelle que pourquoi cette dissolution, il faut toujours essayer de comprendre la logique d'une décision. Il avait voulu un mouvement de clarification. On rappelle, il s'était pris une grosse tannée aux européennes et il avait voulu prendre un petit peu les Français à partir en disant ouais, wow, les européennes c'est une chose, hein, donc vous m'avez mis une grosse raclée aux européennes, mais ne me dites pas quand même que aux législatives vous me mettriez une autre raclée, parce que ça voudrait dire qu'en fait vous ne m'aimez pas beaucoup, alors vous venez de m'élire président, alors qu'en fait vous voulez me donner plein de députés pour que je puisse mener ma politique, hein. Ne me dites pas ça. Pardon, je le résume en termes un peu simplistes, mais c'est un peu cette idée. Cette idée que, pas cap, même pas cap. Ok, vous m'avez mis une fessée aux européennes, mais attention, là, les européennes, on se fait plaisir, on sait qu'on vote pour les députés européens, c'est un peu loin de Paris, là, Paris, Bruxelles, Dijon, tout ça, on en a parlé tout à l'heure. Et donc là, c'est législatif, c'est sérieux, là. Or, vous venez de me réélire président, donc là, vous allez me donner des députés, vous allez voir ce que vous allez voir. Pas cap ou pas cap, ben en fait les Français ils ont été cap, voilà, et ils ont remis une gifle à Macron aux législatives, voilà. Et ça c'était pas prévu, mais c'était un peu ce pari finalement, ce que Macron appelle le mouvement de clarification, ben, moi je vous le traduis en termes un peu simplistes, voilà. Or les législatives ne font qu'accentuer la tripartition de l'Assemblée, l'ingouvernabilité du pays. Il avait une majorité assez réduite avant, il a eu encore moins après, quoi. Alors évidemment, ces troupes n'étaient pas contentes du tout. Il y a beaucoup de députés qui ont perdu leur poste. Hein. Ça a créé beaucoup de colère. Voilà. Mais il a toujours pas de remords là-dessus. Hein. On en a beaucoup parlé. Voilà. Il estime que c'était cette dissolution, une respiration démocratique. C'était assez sain, finalement, de demander aux Français de se prononcer. Que voilà, lui, c'est pas un tricheur. Si les Français veulent pas de députés macronistes, ben, c'est pas grave. Comment ça, je pourrais plus faire passer aucun de mes textes, ben, c'est pas grave. Comment ça, je pourrais faire passer aucune de mes réformes, ben, c'est pas grave. Puis, de toute façon, il y a le 49-3. Enfin, voilà, quoi. C'est un peu embêtant, quand même. Voilà. Mais... En 2024, le 31 décembre, il a quand même débuté un début de mea culpa. Je dois bien reconnaître ce soir que la dissolution a apporté pour le moment davantage de division à l'Assemblée que de solutions pour les Français. Et encore, il dit « pour le moment ». Donc il espère que peut-être ça va s'arranger. Voilà. La lucidité et l'humilité commandent de reconnaître qu'à cette heure, la décision a produit plus d'instabilité que de sérénité. Et j'en prends toute ma part. Voilà. 81% des Français... estime que c'était la pire idée. La dissolution a fait perdre du temps à la France. Voilà. 74% des Français considèrent qu'elle a empêché le gouvernement d'agir et de mener les réformes nécessaires. Voilà. Alors, la question que je pose ce matin et que la Croix pose ce matin, c'est est-ce qu'il peut recommencer ? Same player, shoot again. Les amateurs de flipper, les plus anciens, extra balle. L'entourage présidentiel explique en coulisses « Le président n'est pas du tout dans l'optique d'une nouvelle dissolution. » Mais les rumeurs reviennent régulièrement sur la possibilité qu'il puisse y recourir à nouveau, quoi. Après le cooldown d'un an. Alors effectivement, il a dit qu'il ne le ferait pas au nom de la stabilité jusqu'en 2027. Il l'a dit en décembre 2024 devant le Parlement. Il a dit je ne vais pas dissoudre. Mais bon, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Explique la Croix justement, restent les circonstances qui pourraient finalement contraindre Macron à réviser sa position. L'éventualité d'une crise sur le budget 2026. Vous savez que Bayrou a beaucoup de mal à construire son budget, il cherche 40 milliards d'euros d'économie, il n'y arrive pas. Macron pourrait dire les gars, on est bloqué, il n'y a plus de sous, les caisses sont vides, on n'arrive pas à faire voter le budget. J'ai dit que je ne le ferais pas. Eh ben, je le fais. Je peux vous dire, dans les prochains mois, s'il y a des allocutions du président, je veux dire que ça va streamer, ça. On va regarder ça ensemble, parce qu'on peut avoir ce genre de phrase, quoi. Voilà. Il ne faut pas exclure la dissolution par principe. Le président peut penser que cette fois, la gauche est vraiment désunie, parce que c'est son pari la dernière fois que la gauche serait désunie. En fait, il a raté ça aussi. Et il peut y avoir aussi un motif, le rejet de l'effort budgétaire, explique un député Renaissance. Donc, à suivre. Il peut démissionner aussi. Mais je crois pas non plus. Beaucoup. Imaginons, je sais pas, qu'il trouve... je dis n'importe quoi. Hein. Est-ce que Samuel est neutre, Rombergs? Non. Je le connais très bien, non. Voilà. Mais quand il exprime les idées, il dit bien que ce sont ses idées... que les siennes, qu'elles ne valent pas grand-chose et que vous en faites ce que vous voulez. Imaginons, Macron, à un moment, vous savez que les ambitions s'aiguisent pour la prochaine présidentielle, il y a plein de candidats supposés à la présidentielle, hommes et femmes, de plein de partis. Imaginons qu'un Macron, à un moment, ait un coup de cœur pour un candidat potentiel, n'importe quoi, Édouard Philippe, quelqu'un d'autre, en se disant, putain, c'est voilà, quelqu'un qui pourrait reprendre le flambeau, pas totalement enterrer mon héritage, et voilà, et puis ce serait bien que ce soit lui ou elle, quoi. Voilà. Il dit bah, et quelqu'un qui est dans une bonne séquence poétique. Il dit, allez, je démissionne, let's go. Et puis peut-être que c'est ce candidat qui va être élu, quoi. À un moment où Marine Le Pen ne peut pas être élue puisqu'elle est inéligible actuellement. Voilà. C'est vrai qu'avec Édouard Philippe, il s'aime pas trop. Ouais. Donc comme je le dis souvent, c'est de la politique, tout est possible. Tu crois qu'il a le sens de l'héritage politique? Pas trop, Myriam, tu as raison. À suivre. Bon, on a un petit peu accéléré puisqu'il me reste 30 minutes, c'est bien. On est sur un bon rythme pour vous donner d'autres informations. Est-ce qu'on va parler de l'hôpital maintenant Ouais, on pourrait parler de l'hôpital maintenant. En vrai, c'est pas mal ça. Hein, si vous voulez en savoir plus sur les conséquences sur la vie politique française de la dissolution d'il y a un an du président Macron, je vous recommande un article dans Le Monde, page 6, l'édition qui est parue hier soir, hier après-midi, qui s'appelle Le poison lent de la dissolution. Mais je voulais vous parler aussi de ça ce matin. L'hospitalisation à domicile. Voilà. Bon, les modos, vous faites un travail de fou, hein, bravo. C'est la Lune de la Croix, je crois. Regardez. Grand progrès, à la fois pour la qualité de vie des patients. Moi, je connais pas trop, on va lire le dossier, on va voir si on est convaincu, si on est d'accord avec ça. L'hospitalisation à domicile contribue aussi à la maîtrise des dépenses de santé. Ok. Bon, voici a priori une bonne nouvelle. J'espère que c'est vraiment une bonne nouvelle. L'Assemblée nationale, c'est ça l'actualité, examine aujourd'hui le projet de loi d'approbation des comptes de la Sécu. Les dépenses de santé sont jugées hors de contrôle par la Cour des comptes, hein, ça va pas trop. Et parmi les pistes d'économie, il y a l'hospitalisation à domicile. Qui est aussi, ce serait ça la bonne nouvelle, un grand progrès pour la qualité de vie des patients et qui redonne par ailleurs du sens au travail des soignants. Alors c'est vrai que vous êtes plusieurs à me parler de l'assassinat en Haute-Marne d'une surveillante d'un collège. Alors je voudrais m'arrêter 2 secondes pour aller voir cette info. Qui est dramatique. Je venais de dire à l'instant qu'on partait sur une bonne nouvelle, mais là... En fait, elle était grièvement blessée, puis je crois qu'on vient d'apprendre son décès. J'ai un papier du Huffington Post, un bon site d'info. Ce que l'on sait, donc, en Haute-Marne, de la mort, hein, les infos précédentes parlaient de graves blessures, d'une surveillante devant un collège, à Nogent-sur-Marne. Le collégien a été placé en garde à vue, donc l'agresseur est un collégien a priori. Un élève a été arrêté ce mardi dans la matinée après avoir poignardé une assistante d'éducation à Nogent-sur-Marne. Cette femme de 31 ans est décédée. Le collégien a été placé en garde à vue à la gendarmerie de Nogent-sur-Marne. Donc il y a plus d'informations à venir. Je cherche d'autres infos. J'ai l'impression que BFM a été un des premiers médias à donner l'actu, dont je regarde. Donc c'est le collège Françoise Dolto. 31 ans, la victime. Et effectivement, un élève a été arrêté. On apprend que le suspect aurait sorti un couteau et a blessé grièvement la victime lors d'un contrôle des gendarmes aux abords de l'établissement scolaire. Certains me disaient que les gendarmes étaient déjà sur place et fouillaient les sacs, notamment pour peut-être pour voir s'il y avait des armes dedans. Et ça me semble être une information, effectivement. C'était dans un contexte de contrôle des gendarmes, et c'est là que le collège aurait frappé la surveillante. D'ailleurs, un gendarme a été légèrement blessé à la main par le couteau lors de son interpellation. Selon une source proche de l'enquête, il est âgé d'une 15aine d'années. Il a été placé en garde à vue. À ce stade, ses motivations ne sont pas encore connues. Voilà. Bon. Une pensée pour la mémoire de cette femme qui est morte, qui a trouvé la mort dans ses missions de liées à l'éducation et à la famille et aux proches de cette jeune femme qui, je crois, n'avait que 31 ans. Quoi. Voilà. Voilà. On y reviendra demain matin. On aura plus d'infos sur le profil de l'assaillant, bien sûr. Voilà. On en reparle demain matin. Je reviens à mon hospitalisation à domicile. Des bénéfices pour tous, nous dit le Parisien. À Strasbourg, l'Oral, qui est une structure d'hospitalisation à domicile, permet chaque année à 1200 patients de raccourcir, voire d'éviter le passage à l'hôpital tout en bénéficiant de la même qualité de soins. Si c'est ça, tour de caca, j'essaie de le faire à peu près tous les matins. Ouais. Si c'est le cas, c'est cool. Souvent plus confortable pour les malades. Une hospitalisation, c'est pas forcément très... Malgré les efforts du personnel soignant, qu'il faut saluer, on a la chance d'avoir un personnel soignant incroyable en France, vous le savez, c'est pas toujours agréable une hospitalisation. Souvent plus confortable pour les malades, cette solution est aussi moins coûteuse pour l'assurance maladie. Ça veut dire quoi, redonner du sens du travail aux soignants? Je sais pas. Je pense qu'il faut lire l'article. Ici, on épingle les messages les plus intéressants, bien sûr, comme celui-ci à l'instant. Il est sympa, ce papier. Une petite silhouette se découpe derrière la porte vitrée de la maison, prévenue de l'arrivée de l'infirmière Phineas. C'est quoi, c'est un petit garçon. C'est posté à l'entrée, un poupon serré contre sa poitrine. Ce jour-là, c'est Marjorie qui est inscrite au planning. Le garçonnet aux boucles blondes est content, il aime bien Marjorie, c'est réciproque. Voilà. Cet enfant, c'est un rayon de soleil, dit la soignante. La veille, Phineas a eu 3 ans. Anniversaire qu'il a pu fêter à la maison et pas à l'hôpital. Ça, c'est cool, avec ses parents, Pierre et Rachel, et sa petite sœur Loïs. L'an dernier, à la même époque, c'est dans les jardins du CHU qu'il avait soufflé sa deuxième bougie. Depuis, il n'est plus retourné à l'hôpital, c'est l'hôpital qui vient à lui. C'est bien ça. Grâce à l'Oral Strasbourg, l'une des 281 structures d'hospitalisation à domicile que compte la France. Bon, j'avoue, je ne connaissais pas ça, moi. Donc, il est soigné à la maison par une équipe médicale et paramédicale qui peut intervenir 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Alors, ce petit garçon, il a un syndrome qui s'appelle le syndrome de Wachterl. C'est une maladie orpheline qui associe plusieurs malformations congénitales. Et il a besoin de soins stériles pour éviter une infection. Et matin et soir, vous avez une infirmière de l'Oral, AURAL, qui lui rend visite pour poser un cathéter central, un dispositif qui lui permet de s'alimenter par voie intraveineuse. C'est un grand prématuré, il a passé les 8 premiers mois de sa vie à l'hôpital, petit chou, et ses parents avec lui. Et puis son état s'est peu à peu stabilisé, et l'idée du retour à la maison a fait son chemin, d'abord quelques heures, puis quelques jours, et finalement mois, et maintenant il reste à la maison. Quoi. Lol, Samuel Etienne a épinglé un poste, il a fait exprès, vous croyez? On ne sait pas, Myriam, il est très vieux. Hein. Tu sais, il ne sait pas bien ce qu'il fait. Quoi. Il est vieux, et je crois même qu'il est raciste. Vous voulez pas écouter plutôt le truc sur l'hôpital là? Si l'hospitalisation à domicile n'existait pas, on vivrait encore à l'hôpital, raconte Rachel, la petite Loïs levée dans ses bras, c'est la maman. Donc chaque semaine, vous avez un médecin qui réévalue la situation de l'enfant. Voilà. Donc on saura pas ce qui se passera demain, mais en tout cas, les parents apprécient. Loin des couloirs tristes du CHU, bon. Encore une fois, bravo les soignants, mais c'est vrai que l'ambiance à l'hôpital, c'est pas dingue. Loin des couloirs tristes du CHU, mais pas sans contraintes, car l'hôpital chez soi ne s'improvise pas. Ça implique des contraintes, notamment au niveau de l'hygiène, hein, dit la directrice de l'Oral. C'est pour ça que la mise en place de cette HAD, hospitalisation à domicile, est toujours décidée en accord avec le médecin traitant du patient, et qu'il y a systématiquement une évaluation par l'établissement qui s'assure que les conditions sont réunies, quoi. Beaucoup d'organisations, parce que du coup les parents doivent participer aussi, regardez. Chaque vendredi, les parents, Rachel et Pierre, reçoivent plusieurs cartons de matériel médical. Blouse, seringues, désinfectants, compresses, charlotte, gants, masques, tout doit être stocké sur place. Ouais Jean, c'est cool. La première fois qu'on s'est fait livrer, on s'est demandé où on allait pouvoir mettre tout ça, disaient les parents. Pour que la partie hôpital n'empiète pas trop sur le salon, du coup il y a comme une chambre d'hôpital à la maison. Quoi. Le couple a disposé le chariot de soins à l'entrée, de même que le respirateur dont le petit garçon a besoin pour s'oxygéner la nuit. C'est chou en vrai. Il y a Michardou qui me dit « J'ai eu de l'HAD pour moi il y a quelques années, pendant quelques mois, un vrai soulagement plutôt que de rester à l'hôpital. » Beginner, c'est une très bonne initiative. Je peux vous donner mon exemple. J'ai une maladie très handicapante, force, beginner. Les transports pour l'hôpital pour mes soins étaient le facteur aggravant de mes maladies pendant des années. Avec cette initiative des soins à domicile, mon traitement aurait été bien plus rapide en évitant les déplacements. Si ça peut aider à la compréhension, mon exemple. Bah oui, bien sûr. Alors, message intéressant, Doman aussi. L'HAD, c'est bien, mais il ne faut pas que ça vienne en remplacement d'une hospitalisation en hôpital pour cause de manque de lits. Il y a quelques mois, ma maman, en phase terminale de cancer, s'est vue placée en HAD au lieu d'une place en soins palliatifs. Et c'était un enfer pour elle et pour la famille. Donc. Alors, la docteur Claire Rice. Elle, on est convaincu, l'HAD contribue au bien-être physique et mental des patients, quel que soit leur âge et leur pathologie. On progresse mieux dans son cadre de vie avec des escaliers et sa baignoire. Évidemment, l'exemple à l'instant d'une fin de vie, il est différent, quoi. Rook, à l'instant, dit « J'ai été en HAD pendant 6 mois suite à une très lourde opération branchée à une machine et le fait d'avoir été chez moi m'a évité une très grosse dépression. Enfin, » tout dépend du cas, quoi. C'est une vraie plus-value, dit ce médecin, en pédiatrie mais aussi en rééducation. On progresse mieux dans son cadre de vie avec ses escaliers, sa baignoire et plus globalement dans une atmosphère sereine et apaisée. C'est vrai que le mental, c'est très important aussi dans un processus de guérison et parfois, notamment pour les personnes âgées, mais pas seulement âgées, de quitter leur cadre du quotidien, leur domicile, ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et ça crée du stress, de la détresse même, qui vient... réduire les risques de les possibilités de guérison quoi. À l'heure où les hôpitaux sont engorgés et les comptes de la Sécu dans le rouge, l'HAD représente aussi un potentiel gisement d'économie. Pas de chambre ni de nourriture à fournir aux malades, donc économie. Pas de frais de ménage, économie. Une journée d'HAD coûte en moyenne 250 €. Contre 1 300 €, merci Volcron, pour une hospitalisation classique. Le delta, il est ouf en vrai. Salut, je débarque, quelqu'un peut m'expliquer le message épinglé? Ben, je sais pas, Néphis, on parle de l'hôpital, puis à un moment j'ai vu ça. J'ai trouvé que le message était assez intéressant, assez pertinent, et faisait un peu avancer la discussion. J'ai tenu à mettre à l'honneur l'auteur de ce message. Voilà. Ici, on épingle l'intelligence. C'est un peu un Hall of Fame. Ou Hall of Shame, je sais jamais, je me confonds toujours. Alors quelqu'un me disait, mais ça, en quoi ça améliore le sens pour les soignants? Ce modèle pourrait aussi répondre en partie du moins à la crise de sens dont les professionnels de santé font si souvent état, en particulier depuis le Covid. Je ne sais pas quel est le plus beau métier du monde, mais pour rien au monde, j'en changerais, dit Marjorie, ancienne infirmière libérale. Elle apprécie de prendre le temps. Voilà. Voilà. Quand on travaille à son compte, parce qu'elle était libérale avant, on est payé à l'acte, en HAD, on reste le temps nécessaire. C'est gagnant-gagnant pour les patients, c'est un énorme confort, y compris psychologique. Ça permet à l'hôpital de garder les lits pour ce qui est vital. C'est pas mal, hein? C'est pas mal, vous en pensez quoi? C'est ok, hein? Alors justement, à propos d'infirmiers libérales, Sympathie me dit « Infirmiers libérales, nous sommes en colère parce qu'un projet de loi souhaite diminuer la cotation de soins pour les perfusions à domicile. Déjà que les conditions de travail sont difficiles, nous sommes désespérés. » Bien sûr, Jean Perse, ça part d'un bon principe, mais attention à l'excès et vigilance au cas par cas, bien sûr. Même avec quelque chose qui part d'un bon sentiment, ça peut effectivement... Quelqu'un nous donnait l'exemple lors d'une fin de vie d'un parent, d'un grand-parent, si je ne dis pas de bêtises, qui s'est pas très bien passé en HAD, quoi. « Fois 1000 si c'est dans l'intérêt du patient, me dit Martine Tartine. Alors donc nous avons l'explication de Reyholz, qui est très sympathique d'ailleurs, donc qui dans ce débat sur l'hôpital français a écrit à 11h36 tu es raciste. Alors bon, moi ça m'a plutôt amusé, évidemment j'ai aussitôt épinglé. Et à 11h37, Reyholz disait pardon, je sors d'une défaite sur LOL, il fallait que je troll. Et à 11h38, je viens de parler, j'expliquais que je sortais d'une défaite de LOL et il fallait que je troll MDR. C'est moins drôle, du coup je l'enlève. Voilà. Donc nous avons l'explication. Alors, il n'est pas impossible que dans les prochains jours sur les réseaux sociaux, voire dans de célèbres journaux, nous ayons un article disant Samuel Etienne est raciste. Deux points, sa propre communauté l'affirme. C'est comme ça que ça marche. Nous aurons peut-être ces articles. Nous aurons peut-être ces tweets, ces posts. Samuel Etienne, deux points, du PAF au racisme. Hein? On attend les articles avec impatience. Samuel Etienne, la déchéance. Oh, Samuel Etienne du paf au faf. Le Monde, nous avons un titre pour vous. Samuel Etienne du paf au faf. Attendons cet article avec impatience et que dis-je, avec gourmandise même. Alors, qu'est-ce que j'ai encore pour vous? Ah, c'est mignon ça. C'est pas une mauvaise nouvelle, enfin on va voir. Mais c'est peut-être pas une bonne nouvelle non plus, je sais pas. Est-ce que c'est une bonne idée? Elisabeth Borne, qui est l'actuelle ministre de l'Éducation, ancienne première ministre, vous savez, elle dit, et si après le lycée, après le bac, les lycéens, les lycéennes faisaient une petite année de pause, une petite année de césure, hein, avant de commencer les études supérieures, ce qui se fait dans plein de pays. Je sais pas, moi, pourquoi pas? C'est quelle page, ça? C'est quel journal, déjà? C'est Le Monde? Non. C'est dans l'Opinion, page 5. Ok. Lisons. De quoi s'agit-il? Pourquoi Borne encourage l'année sabbatique après le bac? Service civique. Ok. Stage. Voyage. Cette césure à la sortie du lycée pourrait permettre aux jeunes d'affiner leur projet d'études. On va voir. Avant de juger, lisons l'article, bordel. Hein? Dans le plan à venir présenté par la ministre, l'accent est mis sur l'amélioration de l'orientation. C'est vrai que l'orientation en France, c'est pas ça. Hein? Merci Clinol, j'avais pas vu. Merci pour ton deuxième mois. Merci. Et merci du soutien en ce moment, hein? Les subs, ça y va, hein. Merci beaucoup. Angle mort de l'éducation nationale. En matière d'orientation, on a beaucoup de progrès à faire. Les mesures annoncées concernent les élèves et professeurs de la 5e au post-bac. Elisabeth Borne veut développer la césure. Merci, Toweli. Soit la possibilité pour un bachelier de retarder d'un an son entrée dans l'enseignement supérieur. C'est pas mal, ça. Un an de... Qu'est-ce que tu fais toi pour l'année de césure? Rio, baby. Un an à Rio. Ou alors je parcours l'Amérique du Sud. Ouais, ou alors je sais pas. Ou je deviens professionnel de surf. Non. Un an de tryhard sur Valo. Un an de tryhard sur Valo. Voilà. Je passe silver. Sûr. Non, je déconne. Donc, un an de césure pour retarder son entrée dans l'enseignement supérieur pour s'engager dans un service civique, par exemple. Avec quel argent? Très bonne question, mon Flore. J'espère que l'article en parle. Mener un engagement associatif. Voyager. Une prime à l'oisiveté que donnerait ainsi la ministre de l'Éducation, dont l'objectif est pourtant de construire une nouvelle politique publique d'orientation qui a présenté son plan à venir jeudi. Curieux choix, diront vite certains, quand près de 13% des 15-29 ans ne sont ni en études, ni en emploi, ni en formation. Est-ce qu'une année en l'air ne risque pas d'accentuer ce décrochage? On sent que l'opinion n'est pas super fan du projet, hein, quand même. Étrange façon peut-être de répondre à la demande des chefs d'entreprise qui, en manque de bras, souhaitent une intégration rapide des jeunes sur le marché du travail. On rappelle que l'opinion, c'est un journal libéral très proche des entreprises. L'opinion, ils sont en train de nous dire « Allez, jeunes, là, l'année de césure, là, tut, là, au boulot, au boulot !» Marrant. Contradiction encore avec le leitmotiv gouvernemental sur des finances publiques qui exige que le taux d'emploi des générations montantes s'améliore. Au boulot ! Au boulot ! Ouais, même le mot oisiveté, le choix des mots, là, c'est ta Carole, t'as carrément raison. Et pourtant, c'est François Bayrou qui l'a dit en janvier dernier, les enfants ne poussent pas comme les poireaux. Et oui, et maintenant que j'y pense, c'est vrai. Les enfants ne poussent pas comme les poireaux. C'est assez juste. Ils ne poussent pas à la même vitesse. Bien vu François. C'est vrai. C'est pas mal. Pour le jeune qui est à la sortie du lycée et ne sait pas quelles études choisir, qui veut expérimenter autre chose avant de se lancer dans le supérieur, ce pas de côté peut être positif. Plusieurs arguments militent en sa faveur. Ah. Chez plusieurs de nos voisins européens, déjà la pratique est courante. Elle est même quasi systématique en Suède. Elle permet une montée en maturité. Juge Pierre Martiau, qui est un ancien concepteur de la réforme du lycée sous Blanquer, ainsi celui qui dirigea Sciences Po Lille et y enseigne toujours, voit des jeunes Allemands qui ont tous fait une année de césure bien armés après des expériences variées. Des Allemands bien armés, moi je l'aurais pas faite celle-là. Je sais que ça remonte un peu, les deux guerres mondiales, mais moi j'aurais pas fait des Allemands bien armés. Je l'aurais pas faite celle-là. J'aurais dit bien équipé, bien. Tu vois. Je l'aurais pas faite. Sans perpétuer le grand tour qui, jusqu'au début du XXe siècle, voyait les fils de grandes familles européennes se lancer dans ce voyage initiatique, la césure est fréquente dans les pays anglo-saxons. En Suisse, dans le canton de Genève, par exemple, elle n'est pas encouragée, mais certainement pas pénalisante, résume un professeur de lycée. Le fait que la maturité, l'équivalent du bac, ouvre les portes en Suisse à toutes les formations, la sélection s'opérant en fin de première année, n'y est pas étranger. Voilà. Le coût macroéconomique d'une telle pause est aussi à relativiser. Alors les gens me disent, mais avec quel argent? Vous avez raison, avec quel argent? Chaque année, sur les 800 000 jeunes formulant des gens sur Parcoursup, 200 000 avaient déjà fait un an dans le supérieur mais veulent se réorienter. Leur année blanche a aussi un coût pour les universités ou écoles. Ok, je vois. Le modèle français, notamment ses filières élitistes, qui, comme le résume Pierre Mathieu, valorise avant tout les notes et le fait d'avoir un an d'avance n'est guère souple. Nous, Français, diplômons tôt, 23 ans en moyenne, alors que chez nos voisins, c'est plutôt 25-26 ans. C'est intéressant. Complète Laurent Champanet, qui est président de la conférence des grandes écoles, directeur général des arts et métiers. Cela étant, quelles perspectives s'ouvriront à la rentrée 2026 aux bacheliers qui choisiront de faire une césure? Bon, qu'est-ce qu'on a? Un stage où? Avec une convention. C'est-à-dire une entreprise qui va accepter de filer un stage, ok. Un service civique rémunéré, 620 euros par mois. Un travail au sein d'une association. Voilà, c'est quelques-unes des options. Aujourd'hui, la césure est possible, mais confidentielle. En fait, c'est déjà possible, mais vous avez seulement 9000 jeunes qui s'engagent dans cette voie chaque année, tout en gardant le bénéfice de leur admission via Parcoursup pour l'année suivante. Et ni le ministère de l'Éducation, ni celui de l'enseignement supérieur ne savent vraiment quel est leur profil. A priori, plutôt celui de jeunes familles favorisées. Tiens donc, qui peuvent financer une année d'apprentissage de l'anglais, un voyage à l'étranger, etc. Merci, Clinol. La césure est une bonne idée, mais pas pour tout le monde, juge Didier Deigny, ancien vice-président de l'université Gustave Eiffel. Parmi ses étudiants de Val-de-Marne ou de Seine-Saint-Denis, le risque est de perdre encore les plus fragiles. A priori, ils se retrouvent dans la nature, seuls à réfléchir à leur avenir sans accompagnement. Avec une console de jeu, quoi, dis-le en vrai. Hein ? Vont-ils travailler dans un fast-food puis se dire « Tiens, je vais faire gestion parce qu'ils auront eu un manager sympa ?» L'enjeu, c'est au contraire de les accrocher à la vie universitaire. Oui, Kerion, c'est un peu l'idée, elle est bonne, mais que pour les riches, ouais. C'est un peu ça, ouais. Une mission est confiée par Elisabeth Borne à l'Inspection Générale de l'Éducation et de l'Enseignement Supérieur pour tenter de résoudre ces questions. Celle-ci devra notamment déterminer les points, les ECTS, le système européen de crédit pour l'enseignement supérieur, le pari qu'une pause peut être bénéfique si elle ne se transforme pas en abandon déguisé. Moi, en vrai, tu me mets en pause à 18 ans, je pars en sucette. Moi, tu me mets en pause à 18 ans, c'est direction, direction à Fiesta. Hein. C'est, je sais pas où je vais, hein, mais c'est. Merci Kazé pour ton 4e mois d'abonnement. C'est pas pour tout le monde. Il y a peut-être des gens pour qui ça peut être top. Voilà. Mais moi, tu me donnes un an à 18 ans, je sais pas. Remarque, à 18 ans, j'étais un poète, j'étais un rêveur, j'étais plein de projets. Plein de... Ouais, peut-être que j'aurais fait des trucs en vrai. C'est après que j'ai vrillé. J'ai fait une année de césure après ma licence, me dit Ritewa. J'ai rien repris après, perso. Patate cuite des îles aurait bien aimé. J'aurais vrillé, me dit Jux. Tu en penses quoi de bateau humanitaire de Rima Hassan intercepté par Israël? T'as tout en replay, Litron, on en a parlé pendant une heure au début de ce live. Mortal Azote, j'aurais rien branlé, enfin si, voilà quoi. Ok, je l'ai. Moi, je suis parti 6 mois en Asie à mes 18 piges. GG, je t'inquiète, c'est cool ça. C'était l'époque de Napoléon, t'es 18 ans? Lol, me dit Mikl. Non, c'était... Moi, c'était Louis XIV, moi, à l'époque. Vu ma première année d'études, me dit Vazette, on peut considérer que j'ai fait ma césure. À 22 ans, je suis parti un an à travers le monde, financé avec mes économies, 3000 euros, ça m'a permis d'apprendre à parler anglais, à sculpter, à m'ouvrir intellectuellement, à me dépasser. Meilleur move, me dit Triplex. Le replay est payant? Non, tu l'as gratuitement sur YouTube le lendemain. Voilà. Sur Twitch, il faut être abonné. Mais je suis en train de me demander si je ne vais pas l'enlever, ça. En vrai. J'ai toujours dit, ben, c'est un petit bonus pour les gens qui sub, en fait. Mais je me demande si je vais pas l'enlever, ça. Je sais pas trop. J'aurais adoré faire une année de césure pour découvrir autre chose, me dit la petite potière. J'ai connu les dinosaures, bien sûr, j'ai chassé les dinosaures, moi, Nuwanda. Tu me donnes un an de césure, je ne sors pas de ma chambre, full valo, qui est tout. Faut pas que Elisabeth Borne lise ce message, par contre. Sinon, elle va dire non, putain, non. Anecdote de voyage, Sam? Je pense que j'ai mangé du chien une fois. À la frontière entre le Chili et le Honduras, à une époque où je voyageais beaucoup, j'étais solo. Et je visitais des sites aztèques, incas, tout ça, avec une amie qui est passionnée d'architecture. C'était des trucs de fou. Hein. T'arrives au milieu de la jungle, tu trouves des sites. Enfin, c'est vraiment très, très beau, c'est très fort. Et donc, on était dans un bus et on s'est arrêté à la frontière pour aller voir un site au Honduras, je crois. Et puis, j'avais faim. J'avais un peu fait la fête la veille au soir. Un peu. J'avais mal à la tête, quoi. Et donc, il y avait une petite gargote, là, juste avant la frontière. Je me suis arrêté, qui cuisinait des trucs. Et ils nous ont servi de la viande. Et la viande était bizarre. C'était une viande, j'avais jamais goûté une viande comme ça. Très filandreuse, très, ça ressemblait ni à du bœuf, ni à du... Et voilà. Et après, j'ai vu des chiens qui se promenaient, là. Je sais pas, j'ai eu un flash. J'ai peut-être mangé du yinche, en fait. Ouais. Non, c'est pas du serpent. Le serpent, j'en ai mangé. Non, c'était pas du serpent. Voilà. Black Diamond me dit en vrai c'est régulier le lendemain sur YouTube, moi ça me va super, ok. Ce serait le feu, me dit Gadlan, Twitch est bien plus pratique que YouTube. Je pense que tu devrais, faut vraiment être un fan pour aller regarder un replay, seul risque c'est que les gens postent tes replays avant toi. Le fils d'une amie a fait un an de césure en contrat civique, me dit Nat. Le temps de savoir ce qu'il voulait faire, il a repris ensuite plus motivé et clair sur ses envies. S'ils voient tes replays, ils peuvent te sub en live au vu de la qualité que tu proposes, c'est possible, me dit Jean Perse. Vous en pensez quoi, les habitués? Vous voulez que j'enlève les sub only pour les replays ou pas? Ok, goût de mémoire, filandreux. Oui? Anonyme, tu dis oui? Non, oui, pitié. Moi, je préférais oui. Oui, ce serait bien, oui. Yes, yes, je pense que c'est une bonne idée. Oui, c'est plus pratique, en vrai, comme tu le sens. Oui, pour soutenir les jeunes à l'accès à la culture, on est pour le partage. Oui, enlève, ça plaît à tout le monde. Vive les subs, me dit Roival. Je pense que pour toi, ça change rien, mais pour nous, c'est super. La chaîne YouTube fait bien le travail. Mais est-ce que ça va pas baisser les stats de la chaîne YouTube, en fait? C'était pour aussi pour... En fait, l'idée, c'était pour que le... faire monter la chaîne YouTube, quoi. Tu vois? Ouais, mais pourquoi pas, hein? J'ai l'impression que vous êtes... C'est plutôt oui, hein. Ça permet aussi de prendre le live depuis le début. En vrai, si on sub, c'est surtout pour exprimer notre gratitude envers ton énorme travail. Non, je crois que c'est OK, hein. Demande à Rayou, apparemment ça divise les revenus par 10. Quoi? De d'enlever le sub only? Ah, bien une question que je me pose aussi, puis je vous abandonne parce que là j'ai un team ça fait, avec Paul qui est le rédacteur en chef d'MVP. C'est est-ce que je double, est-ce que je vous ai déjà posé cette question, mais je sais pas. Est-ce que vous pensez qu'il faut que je stream sur YouTube en même temps? Tu vois? Oui non oui non oui non oui non 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 oui non, why not? Notre galère. Non, je ne pense pas. Oui, non, oui, non, oui, non. Je n'arrive pas à me décider. Oui, non, sondage, oui, non. Une seulement sur les stream event ou type ça me plaît. Ah, peut-être pas. Une petite partie des streams seulement. On pourrait faire ça sur certains streams seulement, ouais. Ouais. Bon, je vais y réfléchir. Non, non, c'est autorisé maintenant. Bon, les amis, je vous abandonne parce que j'ai un tips. Merci d'avoir été aussi nombreux. C'est fou en vrai. Merci de vous intéresser à l'actualité. Merci de me soutenir, de me supporter dans tous les sens du terme avec mon humour claqué au sol et mes prises de position sur l'actualité dont vous devez vous méfier. Faites-vous votre propre opinion sur l'actu, c'est ça qui est important. Vous n'oubliez pas que quand je vous dis un truc, ça n'est que ma petite analyse à moi, ça ne vaut pas grand-chose. Hein? Faites-vous vos idées, vos opinions. Multipliez les sources d'information. Alors, qui est en live là? Chez les amis, là, je connais pas cette chaîne.
Ouais. Salut à toutes les personnes qui viennent d'arriver sur le live. J'ai plusieurs.
Je connais pas cette personne, c'est marrant. Ok. Alors, qui on raid ce matin? Ok. Qui on n'a pas raid depuis longtemps? Oh oh. Ouais, j'ai une petite. Et si on allait au Japon là comme... Alors, pas chez Citron Violet que j'ai raid très récemment, j'ai une autre envie là. Ouais. Vous savez quoi? Hier, on est allé au Japon voir Citron Violet, ou hier ou avant-hier. On retourne au Japon voir ICI Japon Corp, les amis d'ICI Japon Corp, qui sont notamment en train de construire ce projet, vous savez, incroyable, du musée du jeu vidéo là, près de Paris, dans quelques temps, là, ça c'est un projet de fou. Voilà. Et ils sont en train de jouer à Mario Kart, mais en team là. Parce que ICI Japon Corp, c'est une incarnation qui peut changer selon les streams, c'est pas toujours la même personne, ils sont plusieurs. Voilà. Et là, ils sont en train de jouer ensemble à Mario Kart. Voilà. ICI, on roule sur les autres. Le programme me semble super sympa. Voilà, ils sont adorables, ils sont géniaux. On est au Japon et ça joue en team là. Ça va nous détendre. Je vous retrouve cet après-midi ou plutôt ce soir pour du stream. On va finir Heavy Rain. Voilà, troisième stream solo sur Heavy Rain, qui est un jeu incroyable. N'oubliez pas, demain à 18h, il y a un super MVP. Je vais poster le visuel tout à l'heure. Jeudi 20h, il y a le stream au Louvre. Là, ne manquez pas, c'est le stream de l'année pour moi. Exposition, gaming, on va jouer aux jeux vidéo au Louvre, ça va être une dinguerie. Merci encore et je vous dis à tout à l'heure. Merci encore pour ce matin. Ciao, ciao.
Alors voilà. Purée. Moi, je t'attaquerai pas, moi.
Attends, y a que toi qui m'es passé devant?
Bah oui, j'ai l'impression qu'on était bien avancé.
Ouais.
C'est pour ça.
Bon bah écoute, on échange les rôles alors. Purée, j'ai le klaxon. Vas-y.
Bah s'il y a une bleue qui passe, tu me protèges.